Découvrez MyMatch en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisée. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec MyMatch, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RMC. C'est donc l'Intégral Foot et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À mes côtés, un arrière-gauche de légende du championnat de France, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Grégory Pestet est là. Salut Greg.
Salut Benoît.
Greg, je suis ravi que tu sois là parce que tu es aussi l'homme d'Italie-France. Tu connais le championnat italien sur le bout des doigts, donc tu vas pouvoir tout nous dire de l'Italie.
Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah ouais. On n'a plus les droits, mais il est vrai que j'ai commenté durant 6 ans. Donc ça
6
va.
Ans.
Ouais, il y a de beau reste.
Ah, tu les connais tous ces mecs de la Squadra.
Oui, vous êtes tous vu évoluer.
Bon, clairement. Excellent. On pourra en parler avec toi. Vous le savez, nous sommes en veille d'Italie-France. C'est la 6e et dernière journée de Ligue des Nations. Le dernier match de l'année civile pour cette équipe de France. Est-ce qu'on traverse actuellement un creux de génération? C'est la question qu'on va se poser d'ici quelques secondes. 32-16 pour participer au débat. Autre débat autour des Bleus à 19h. Est-ce que Didier Deschamps joue sa crédibilité demain soir? C'est le spécialiste des grands rendez-vous. On sort de prestations moyennes. Est-ce que vous l'attendez au tournant, le sélectionneur des Bleus? 32-16 là aussi pour participer au débat. À 18h30, on parlera justement de l'Italie. L'Italie est-elle redevenue une grande nation du foot? On sera avec un ex-international qui évolue à ton poste, Federico Balzaretti, ami d'RMC Sport, qui sera avec nous. Puis on fera une parenthèse Ligue 1 quand même dans cet intégral foot avec l'actu du moment, l'Olympique Lyonnais, le dossier chaud de cette fin de semaine, la situation financière de l'OL. La direction s'est exprimée ce matin au lendemain de la relégation administrative annoncée par la DNCG. Est-ce que l'OL est en danger? Supporters lyonnais, là aussi on vous attend au 32-16. C'est parti pour l'intégral foot. Et on file tout de suite à Milan, retrouver la voix du foot sur RMC, Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Salut Benoît, salut Grégory.
Bon,
salut
Jeannot. Jeannot, la période est un peu morose, mais demain, on a une magnifique affiche. Demain, tu seras à San Siro. 68 000 spectateurs pour cette Italie-France. Ça, c'est quand même une bonne occasion pour terminer sur une bonne note. Oubliez la triste prestation de jeudi face à Israël. Jeannot, tu sors des confs. Ibrahima Konaté et Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il faut en retenir alors?
Bah, Didier Deschamps a d'abord été un petit peu agacé par rapport à certaines questions amenées sur les critiques, sur peut-être un peu de lassitude, un manque d'énergie. C'est arrivé tout de suite d'entrée. Ça a été en tout cas la première question et on a vu le visage du sélectionneur se fermer un petit peu. Mais vous allez l'entendre, il a répondu très tranquillement et comme il sait le faire à l'habitude. Pourquoi? Parce que les critiques, il vit avec ça quand il était joueur, quand il était entraîneur et aujourd'hui maintenant sélectionneur. Écoutez-le.
Je fais tout pour continuer à maintenir l'équipe de France au niveau où elle est arrivée, avec des exigences, une attente qui sont là. Après, les critiques, elles ont toujours fait partie de ma vie, les compliments aussi. Mais c'est pas ça qui va influencer ce que j'ai à faire, ce que je pense faire pour que l'équipe de France soit la plus performante possible.
C'est vrai qu'il y est habitué aux critiques, Didier Deschamps. C'est le sujet du moment. L'autre sujet qui fait beaucoup l'actualité, Jeannot, c'est cette fameuse fatigue chez les joueurs des Bleus et chez tous les joueurs internationaux d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Alors après, ça arrive dans d'autres pays, ça arrive moins, mais chez nous, en tout cas, et c'est ce que fait Didier Deschamps comme constat, c'est que cette fatigue, d'ailleurs fatigue physique et psychologique, ouais. Quand on parle de physique et psychologie, on pense bien évidemment aussi à Kylian Mbappé. Ce sont deux termes qu'on a évoqués récemment et encore dernièrement sur l'absence de Kylian Mbappé lors du précédent rassemblement et celui de novembre. Pourquoi ? Parce que il nous explique que, en fait, quand il récupère les joueurs et dans l'accumulation des matchs avec les calendriers, ce sont des joueurs qui sont fatigués quand ils arrivent à Clairefontaine et qu'il y a très peu de temps entre le moment où ils arrivent et le moment où ils enchaînent avec ce premier match du rassemblement. Donc, oui, il a évoqué ça, même si c'est pas ça qui explique le fait qu'il n'ait pas eu la possibilité de marquer contre Israël avec toutes les occasions qu'il a eues, 6 au total, plus des situations dangereuses. Quand on n'a pas d'occasion, on a des explications. Quand on a des occasions et qu'on ne les met pas au fond, ben, ça veut dire que la passe n'est pas bonne. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, Didier Deschamps est revenu très précisément sur cet aspect-là. Et ce qu'il en décline, en fait. Cette fatigue-là, aujourd'hui, montre que peut-être il manque, chez certains, et notamment chez les attaquants, un peu de lucidité.
Lundi, mardi, il y avait besoin de récupérer pour beaucoup de joueurs, parce qu'ils sortent de semaines à 3 matchs, qui se sont enchaînés. La motivation, elle est là. Et heureusement qu'elle est là. Mais entre avoir la motivation et après le transcrire... Il y a évidemment l'état physique qu'on peut plus mesurer, mais la fatigue psychologique, elle est des fois plus importante. Et celle-là, c'est plus difficile de la quantifier.
Tu l'entends, toi, Greg Pesley, ce discours des joueurs et du sélectionneur, dire que là, c'est vrai qu'on est en fin d'année civile, l'année a été chargée, il y a eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de matchs internationaux et puis en club et en Coupe d'Europe. C'est un discours que tu acceptes?
Oui, ça se tient, on peut l'entendre. Que ce soit juste en fin de saison, ou que ce soit au printemps, ou juste avant la fin de saison, il est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu un carrefour, hein, un virage du calendrier, notamment international. Et il y a de plus en plus de matchs, c'est une réalité. Et il est vrai que mentalement, avoir cette activation mentale avant certaines rencontres, elle n'est pas évidente à aller chercher. Alors physiquement, vous pouvez être un peu moins bien, mais ça ne se verra pas forcément, ouais. Parce qu'on reste dans un sport co, et puis... On peut passer aussi au travers d'un match sans que ça se voit de trop. Mais psychologiquement, quand vous avez du mal, votre physique s'en ressent. Et l'accumulation, il est vrai, n'aide pas. Ça, c'est une réalité.
Parce qu'on peut se dire, en sélection, on se repose les premiers jours, comme l'a dit Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'on arrive à Clairefontaine, et là, c'est un peu cool et tout. Mais c'est quand même un changement d'environnement, de cadre. Donc, on est obligé de s'adapter perpétuellement. Quoi. C'est un peu ce qui est dit à travers ça.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les déplacements. Enfin, c'est tout le travail invisible.
Ouais.
Au-delà des rencontres et de ce qui se passe sur le terrain. Mais ça, faut le gérer aussi. Et pour un joueur, quand tous les trois jours... Alors, on est demandeur, parce que on prend un panel de joueurs. Je pense que la majorité préfère jouer
à Konaté,
des matchs
à dire. On veut tout savoir
que s'entraîner. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Mais à un moment donné, ce ne sont pas des machines non plus.
Ouais, voilà. Donc ça a été dit. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par Deschamps, qui a annoncé des changements pour demain. On ne sait pas lesquels encore, Jeannot. On ne sait pas qui sera capitaine d'ailleurs, mais il y aura des changements dans cette équipe de France.
Ouais, tout à fait. Alors après, on va voir s'il va rester sur un 4-3-3 ou s'il va passer sur un 4-2-3-1, schéma avec lequel il a terminé le match contre Israël, pour peut-être donner, pourquoi pas, à Nkunku de la liberté d'expression dans ce rôle un peu à la Griezmann à une certaine époque, ou peut-être Michael Olise, qui avait tenu ce rôle pour sa première sélection. On y verra peut-être ou pas plus clair tout à l'heure après la séance d'entraînement à huis clos, parce que c'est quand même une cathédrale ici à San Siro, et c'est pas simple de gratter des informations sur la séance d'entraînement, d'autant plus qu'on a eu droit à un brouillard tombant là tout à l'heure. Il fait quand même assez frais.
C'est rare sur
la Lombardie. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, c'est qu'à cette période là tu t'habitues quand même à avoir ce genre de météo.
Vous
même si quand on a atterri,
il est à 100 mètres du stade, on voit
soleil.
Pas le stade, c'est fou. On est à 100 mètres de San Siro, tu vois pas.
Quand tu arrives au stade là tout à l'heure, on est arrivé au stade, on ne voyait pas
San Siro. C'est très très haut.
Ah ouais, non, mais c'est une cathédrale, c'est juste magnifique. Voilà, moi j'adore les matchs de l'AC Milan, j'adore les matchs de l'Inter ici. Bon, je prendrais pas parti entre l'un ou l'autre pour l'ambiance, mais j'ai mon point de vue. Et l'Italie à 68 000 spectateurs, ça va quand même dégommer. Et d'ailleurs, Konaté en a parlé de ça et a évoqué, lui qui a joué trois fois ici et a gagné trois fois. Donc pourquoi pas une quatrième, comme il l'a dit lui-même en conférence de presse.
Et puis évidemment, il n'y a pas une conf sans qu'on parle de Kylian Mbappé, le grand absent de ce rassemblement. D'ailleurs, on parlait de fatigue psychologique, tu as raison, de fatigue mentale. Ça a été évoqué, Mbappé, et c'est Konaté qui a répondu d'ailleurs, Jeannot.
Alors, ouais, parce que on n'en a pas parlé avec Deschamps, donc ça quand même depuis le début du rassemblement et même depuis l'annonce de la liste, hein, où on a donc découvert son choix de ne pas l'appeler à chaque possibilité, on lui en a parlé un petit peu, ça l'a d'ailleurs un peu agacé, énervé, où il a dit mais laissez-le tranquille, en parlant de Kylian Mbappé. Spalletti en a un peu parlé, Donnarumma en a parlé tout à l'heure en conférence de presse. Alors c'était pas ici à San Siro, c'était au centre d'entraînement de l'équipe nationale. Il nous aurait causé bien des ennuis. Voilà. Alors ça, c'est quand même important de l'entendre de la part du gardien de but du Paris Saint-Germain et ancien partenaire de Kylian Mbappé. En revanche, pour Ibrahima Konaté, la question, elle a été posée par un confrère italien, toute simple. Est-ce que l'équipe de France est moins bonne sans Kylian Mbappé? Écoutez la réponse de Konaté.
Mbappé, on l'aime tous, c'est un joueur exceptionnel pour ce pays et jamais on va oublier, jamais on oubliera ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour cette équipe. C'est pas une fois en soi, c'est pas parce qu'il est pas là que c'est impossible qu'on gagne ça. Non, jamais de la vie.
Il a même démarré en disant c'est quoi cette question? Genre ça paraissait évident que sans Mbappé l'équipe de France était moins performante. Mais c'est tout le sens de notre débat, le débat qu'on voulait installer d'ailleurs Greg et Jeannot. C'est on craint, c'est vrai, ce petit creux de génération. On savait que Didier Deschamps voulait un peu oxygéner les troupes avant l'objectif.
C'est
2000,
pour ça hein, qu'il a mis en place 2026. Ce turnover au sein de la Ligue des Nations, qu'il l'a affiché clairement dès le rassemblement de septembre et qu'il a laisser entendre que malgré l'enjeu, parce qu'il y a encore une possibilité de finir premier, bon, il faut gagner 3-0, hein, donc déjà, ou 3 buts d'écart. Mais il a encore évoqué ça, parce que pour lui, le plus important, ce sont les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Le tirage au sort a été programmé le 13 décembre à Zurich. Le fait de jouer les quarts de finale, bah déjà, ça sera mars, donc tu décales à juin. Peut-être le début des éliminatoires ou pas. Si tu es qualifié pour la finale à 4 à ce moment-là, tu ne démarreras les éliminatoires qu'en septembre, puis octobre, puis novembre, avec donc 3 rendez-vous pour un groupe qui sera constitué seulement de 4 équipes. Donc ça veut dire aussi qu'il pense à tout ça, mais dans le côté générationnel que vous allez évoquer, qu'on va évoquer, aujourd'hui, on a du mal à voir Barcola être régulier au lycée. On l'a vu quelques minutes lors de sa première sélection et puis c'est plus compliqué. Bizarrement, au lycée, moins bien en ce moment avec le Bayern, alors que Barcola est très bien avec le Paris Saint-Germain. Donc, je sais pas si c'est vraiment un problème générationnel, parce que quand on voit le match qu'a fait Cherki avec les Espoirs, on se dit que quand il va monter d'un étage, peut-être que ça amènera un peu de folie à cette équipe de France. Et moi, je serais pas surpris de le voir débarquer en mars prochain. C'est pas une info, mais c'est juste un ressenti. Donc, ça veut dire quelque part aujourd'hui que c'est pas qu'un problème générationnel, c'est un contexte global où il faudra peut-être à un moment donné que le sélectionneur lui-même décide de se remettre un petit peu en cause, pas par rapport à sa fonction, mais vis-à-vis de nous les médias et vis-à-vis des observateurs qui de plus en plus, et ça date pas de quelques semaines ni de quelques mois, trouvent que cette équipe de France est moins génial, moins génial à regarder et moins génial à supporter.
Et on en parle dans un instant. Greg Pesley est là, Jeannot Rességui reste avec nous, il est 18h11, vous écoutez RMC, l'intégral foot, je vous rappelle notre débat, traversons un creux de génération en équipe de France, 32-16 hein, pour participer au débat, on aura l'avis de Greg dans un instant, et je rappelle l'événement de la soirée. France-Nouvelle-Zélande, évidemment, le test match de la tournée d'automne pour le 15 de France, match à suivre dès 21h, avant-match dès 20h au Stade de France, une grande soirée rugby qui vous attend sur RMC, mais on parle de foot jusqu'à 20h et de cette Italie-France qui est prévue demain. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
18h15 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 20h avec Greg Pesley, avec Jeannot Rességui qui est en direct de Milan. Demain, c'est Italie-France. Grande soirée de foot sur RMC. Ce soir, ce sera le rugby avec France-Nouvelle-Zélande. Mais on parle donc des Bleus. On parlera de l'Italie dans 15 minutes avec Federico Balzaretti, ex-international italien. Est-ce que l'Italie est redevenue une grande nation de foot? On profitera des David Greg, qui est connaisseur, très bon connaisseur du foot italien. Mais allons-y sur les Bleus. On est donc avec Jeannot et Greg. Et on parle du creux de génération. Est-ce qu'on traverse ce fameux creux de génération 32-16 pour participer au débat avec nous? Greg, on t'a pas encore entendu. Est-ce que tu penses que oui, on est dans une phase un peu de transition entre deux générations? On a des joueurs importants qui sont partis. Giroud a quitté l'équipe de France. Griezmann a quitté l'équipe de France. Mbappé n'est pas là depuis deux rassemblements. Est-ce que tu es inquiet ou est-ce que tu te dis que quoi qu'il arrive, le vivier français est assez fourni pour qu'on n'ait pas vraiment ce fameux creux de génération?
Alors, transition générationnelle, oui.
Ouais.
Ça, c'est une réalité, avec les noms que tu viens de citer. Après, creux générationnel, non. Voilà. Ouais. On a un vivier...
On n'a pas une baisse de performance énorme, quoi, pour toi?
Non. Je pense qu'on a différents profils, mais je pense que la qualité est toujours là. Quand on juge vraiment la qualité intrinsèque de chaque joueur, alors sur les catégories de jeunes, je pense que on n'a pas à s'alarmer par rapport à ça. Après, c'est de la manière dont on utilise tous ces profils-là, et ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est sûr, et c'est ce qui est reproché en ce moment à Didier Deschamps, Jeannot Rességui, c'est ce manque de créateur finalement, parce que c'est vrai que le choix qui a beaucoup fait parler après France-Israël, c'est d'avoir amené un joueur comme Warren Zaïre-Emery en position de meneur de jeu numéro 10, quoi. On se dit, si c'est après, si c'est Zaïre-Emery le numéro 10, c'est quoi, il y a un problème de créateur, mais après, même s'il a beaucoup de qualité.
Après, il faut pas tomber non plus dans la provoque de la question toute simple de dire pourquoi vous avez fait jouer Zaïre-Emery à ce poste-là. Luis Enrique le fait jouer de cette manière-là. Donc, on peut pas l'empêcher aussi à un moment donné de lui dire ou de lui demander de voir ce que ce garçon-là est capable de faire à ce niveau-là. On s'est rendu compte que ça passait pas, mais ça passait pas parce qu'il a pas non plus les mêmes joueurs autour de lui qu'il peut avoir au Paris Saint-Germain dans ce rôle-là au sein du milieu de terrain. Parce que de toute façon, on est tous d'accord que sur Israël, au-delà de l'inefficacité des attaquants, c'est le milieu de terrain français qui a failli. Est-ce qu'on avait besoin de trois milieux récupérateurs relayeurs contre Israël?
Je pense que non. Je suis d'accord. Voilà. Par rapport à ça, t'as besoin.
Et on a attendu la 85e minute pour voir un changement de schéma tactique dans un 4-2-3-1 avec le repositionnement de Nkunku, alors qu'il était rentré pour jouer sur le côté gauche. Donc on a les armes, on a les atouts, c'est pas un souci de génération, c'est simplement peut-être de la part du sélectionneur d'avoir un peu plus envie de prendre des risques. Et puisque la Ligue des Nations est un laboratoire, je mets le terme entre guillemets, puisque c'est un laboratoire, bah allons jusqu'au bout et prenons plus de risques dans le jeu, dans l'alignement des joueurs, et de voir de quelle manière à ce moment-là on peut être capable de faire des progrès dans le collectif de l'équipe de France.
Non, mais c'est surtout par rapport à l'animation qui a été mise en place face à l'Israël. Tu sais forcément que tu vas avoir 80% du temps le ballon. Donc, je te rejoins là-dessus, Jeannot, par rapport à ce milieu de terrain qui, pour moi, avait des profils quasi identiques. Il te faut plus de créativité. Tu mets juste un joueur pour assurer la sécurité, à N'Golo Kanté, par exemple. Tu aurais pu être Kamavinga ou Rabiot. Voilà. Et derrière, tu mets des joueurs à vocation offensive. Parce que...
Est-ce qu'on les a vraiment, ces créatifs?
Et ça, c'est une autre histoire aussi.
Est-ce que Nkunku,
oui, moi je pense
on l'aime beaucoup, il a des qualités.
Je pense qu'il est capable de tenir ce rôle-là.
Parce que déjà, il a été formé en tant que milieu relayeur.
Oui, bien sûr. Les espoirs avec les U23, puisque c'est comme ça qu'il fallait les appeler pour les Jeux Olympiques, a tenu ce rôle-là avant, à un moment donné, de glisser à droite à la place de Enzo Mio. Mio, Akiyush sont des joueurs qui sont surveillés par Didier Deschamps. Et moi je vous parlais d'Olysée auparavant par rapport à l'aspect générationnel. Olysée, pour moi, Mio, Akliouche et je rajoute Cherki sont des joueurs qui vont peut-être justement apporter ce plus, mais à condition de les faire jouer, à condition de les mettre dans des bonnes conditions justement.
Ouais, c'est sûr. Et être patient aussi. Parce que ça reste de jeunes joueurs, faut pas l'oublier non plus. Donc tu n'arrives pas comme ça, il y a un poids, hein, ce maillot bleu.
Mais ce qui nous embête, c'est que c'est des postes très durs, des départs difficiles à combler. C'est vrai que Griezmann avait vraiment cette patte où on pouvait le faire jouer n'importe où, on savait qu'il apportait ce côté créatif. Et mine de rien, ce neuf qu'on cherche toujours. Ok, Colomouani fait grand service, marque quelques buts sur les derniers matchs, mais on cherche toujours ce numéro 9. Oui. C'est ça aussi, c'est un vrai problème. Mais
ce qui prouve bien, si je peux me permettre, que le départ à la retraite internationale de Antoine Griezmann, il a pris à contre-pied tout le monde et même le sélectionneur.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Parce que s'il l'avait anticipé, s'il l'avait laissé entendre. Non, mais si, tu mets Nkunku. Dans l'esprit de Didier Deschamps, Nkunku a toujours été la doublure potentielle d'Antoine Griezmann. Il n'avait pas pu le remettre à ce poste-là parce qu'il a été longtemps blessé, parce qu'il a aussi rechuté derrière. Mais c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que Deschamps l'a rappelé, alors que, parce qu'on parle de Colomouani et son temps de jeu au Paris Saint-Germain, Nkunku joue peu à Chelsea. Et malgré tout, il l'a appelé.
Après, par rapport à Griezmann, il est vrai que il a laissé un trou béant et tu ne le remplaces pas comme ça. Donc tu t'adaptes un petit peu avec les joueurs que tu as, tu identifies les profils que tu as aussi au sein du groupe France. Après, on stigmatise le rôle du numéro 9 qui doit absolument marquer. Mbappé, oui, c'est 40 buts, 47 buts en 80 matchs, je crois, en équipe de France.
Pas de problème. Matchs.
À un moment donné, on a le droit de prendre le relais. Et moi, je pense que des milieux doivent prendre le relais. Le problème aujourd'hui, c'est dans tes milieux en équipe de France, tu n'en as pas un qui a plus de 5 buts en équipe de France.
Ah bah oui,
et qui ne marque pas plus de 5 buts aussi.
Ils n'ont pas beaucoup plus de 10 buts, tes attaquants.
Mais il est là le problème aussi.
Tu as marqué 2 buts en équipe de France.
C'est très difficile aujourd'hui.
C'est sûr.
Parce qu'il faut prendre le relais.
Tiens, parlons-en avec Patrick, qui a composé le 32-16 pour participer au débat. Salut Patrick.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue, merci d'être dans l'Intégral Foot avec Jeannot Essayé, avec Greg Pesley. Est-ce que tu penses qu'on traverse un creux générationnel, toi, ou est-ce que tu penses qu'il ne faut pas s'inquiéter?
Oui, sur le fond, on traverse un creux générationnel, mais le mal, il est plus profond que ça, parce que si on regarde le dernier championnat d'Europe, pour marquer des buts, ça a été compliqué. Et pourtant, il y avait encore Giroud, il y avait encore Mbappé à ce moment-là, il y avait encore Griezmann. Donc, l'efficacité offensive, elle n'est pas tout à fait nouvelle.
Il y avait des conditions quand même.
Ouais, c'est un exemple différent. Ouais. Ouais. Je pense que tout le monde était sur les rotules. C'était pas spécifique à l'équipe de France.
Mbappé masqué aussi.
Aussi, ouais. C'est pas faux, mais il est vrai qu'il y a eu 2 buts contre leur camp, un pénalty en phase de poule.
Voilà. Et là, c'est autre chose parce que en talent individuel pur, je pense qu'on a des joueurs quand même qui sont des très très bons joueurs. Mais on a Deschamps, en tout cas actuellement, a des complications à faire jouer cette équipe offensivement. On a quand même l'impression d'une équipe qui va vers l'avant. Bon, ok, il y a des occasions, mais ça rentre pas. Et c'est quand même un petit peu compliqué de voir que des joueurs de ce niveau-là, qui jouent tous des Coupes d'Europe et tout, n'y arrivent pas. Puis le milieu de terrain, ça manque de créativité. Alors après, bah oui, il va falloir remplacer les Griezmann, il va falloir remplacer les Varane, les Giroud, les Lloris qui sont pas bons. Lloris, c'est encore autre chose. Ouais. Mais effectivement, il y a trop de joueurs qui sont partis peut-être en même temps, et puis ça va prendre un petit peu de temps avant de retrouver. Mais je pense que ça peut basculer très très vite. Je pense que ça peut basculer très très vite.
Après, il est vrai que, enfin, pour un sélectionneur, un entraîneur, le plus compliqué, c'est de trouver les complémentarités, les binômes sur le terrain, parce que c'est ce qui permet d'avoir un jeu fluide et après un jeu collectif qui ressemble à quelque chose. Parce qu'une somme d'individualité comme ça...
Même s'il a eu la chance de mettre des joueurs qui évoluaient souvent dans le même club. On avait beaucoup de Parisiens offensivement notamment. On a vu Dembélé, Colomoigny et Barcola par exemple. Même si Colomoigny a un temps de jeu restreint en club.
À la base, c'était fait pour. C'est là, messieurs Benoît et Grégory, que la compo d'équipe de demain va être intéressante.
T'as des sensations, Jeannot, d'ailleurs?
Non, pour l'instant, non. Pardon. Moi, je suis bloqué par l'extérieur du stade et là, je ne peux pas vous apporter grand chose et placer. Non, mais même pas, oui, le brouillard, je te confirme, mais placer sous haute surveillance parce que je fais les 100 pas juste devant l'entrée presse et donc on me regarde un peu bizarrement. Mais non, juste pour dire que la compo de demain va être intéressante parce que, il va y avoir du turnover. Moi, je pense que Saliba, Guendouzi, Rabiot, ont des chances d'intégrer cette équipe comme Lucas Digne. Après, c'est devant et le milieu de terrain. Parce que s'ils décident de ne pas conserver le 4-3-3, s'ils décident de repasser en 4-2-3-1, justement, comme l'évoquait à l'instant Grégory, c'est les binômes. Moi, j'ai envie de voir un binôme Nkunku au lycée. Par exemple, j'ai envie de voir un binôme Nkunku-Barcola. Et peut-être aussi par le fait qu'il va être à la maison, que Marcus Thuram se retrouve... porté par San Siro et montre qu'il peut faire mieux que ses 2 buts marqués, simplement ses 2 buts, je rajoute, marqués en équipe de France. Quoi.
À condition de l'utiliser comme il se doit. Thuram, il a toujours joué avec Lautaro, donc il joue à 2,
Mais donc ça veut dire, Grégory, que tu ne l'auras pas dans les mêmes conditions. Tu auras, quand tu regardes les dernières compositions d'équipe, ou même les compositions d'équipe depuis 12 ans de Didier Deschamps, toujours. Le 4-4-2 à 2 attaquants, c'est rare.
Ouais, mais donc c'est problématique.
Voilà. Enfin, c'est rare. Ça a existé, mais ça n'existe plus.
C'est pour ça que je dis, tu dois identifier les profils des joueurs que tu as.
Ça peut pas marcher de mettre.
Mais par exemple, tu l'associerais avec qui, toi, Grégory?
Si tu mets Nkunku juste derrière lui ou à sa hauteur, ça peut pas fonctionner qu'il puisse combiner avec Nkunku, qui est un joueur.
Tu ferais Thuram Colomoigny, par exemple?
Profil hybride, d'ailleurs.
Moi, on aurait pu finir l'Israël avec Colomoigny et Thuram pour avoir du poids et avoir 2 attaquants. Surtout que t'es en.
On l'a fait, mais Colomoigny était à droite.
Ouais.
Voilà. Mais deux devant.
Deux dans l'axe, non.
Deux dans l'axe, c'est
très
rare.
Peut-être mieux.
Et tu peux mettre Nkunku, comme tu le dis, parce qu'il a cette créativité, il sait combiner avec un joueur en pointe.
Et d'autant que la difficulté pour Thuram, s'il est titulaire demain, c'est qu'il va affronter une défense qui est très solide depuis le début de cette Ligue des Nations, et des joueurs qui le connaissent bien en plus.
Parce que, comme Bastoni. Ouais.
Voilà, il y a 90% des joueurs italiens qui évoluent en Serie A. Merci Patrick. Est-ce que tu as un pronostic à nous donner pour demain? Tu es quand même confiant pour l'équipe de France, ce déplacement en Italie?
Pas spécialement.
D'accord.
Pas spécialement.
Non, pas spécialement. Après, peut-être un match nul, mais je suis pas sûr que l'équipe de France va s'imposer contre l'Italie.
On rappelle les données du problème, entre guillemets. La France et l'Italie sont qualifiées pour les quarts de Ligue des Nations. Il faudrait combattre l'Italie par au moins deux buts d'écart pour terminer premier. L'enjeu, en fait, c'est d'éviter l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal pour les quarts, Jeannot, qui sont des quarts aller-retour avec retour chez le premier de groupe. Hein, c'est ça.
C'est le premier de groupe et le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, le 22 novembre. C'est un peu la nouveauté, hein, parce qu'on a rajouté par groupe dans la Ligue A notamment une équipe supplémentaire. Après tu peux comment
il n'y a pas assez de matchs.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais regarde la Ligue des Nations, le calendrier se resserre, des quarts de finale en mars, la finale à 4 en juin si tout va bien, t'attaques les éliminatoires septembre, octobre, novembre, allez hop, on rassemble tous les matchs pendant trois trêves internationales et après t'as en mars 2026 les barrages avec le notamment les différentes ligues des nations. Donc ça veut dire quelque part que je pense que et l'UEFA et la FIFA n'ont toujours pas compris quoi. Ils n'ont toujours pas compris. Et on va présenter le début décembre, ne l'oublions pas, la nouvelle compétition dont tout le monde se frotte le ventre à Zurich, la Coupe du monde des clubs.
Mais ils l'ont compris.
Ils n'ont
pas
d'ailleurs trouvé de diffuseur en France et en Europe.
Les instances ont compris, mais ils le voient pas sous ce prisme-là en tous les cas.
Bah ouais.
Mais comment tu peux dire qu'ils l'ont compris, Grégory? Moi,
non,
ils ne veulent pas le comprendre.
Ils savent très bien, ils ne veulent pas.
Bah, déjà, ne pas trouver
mais malheureusement,
c'est un indicateur.
Ils le comprendront peut-être un jour si on a un vrai problème sur le terrain avec un joueur qui aura justement trop travaillé, trop participé à des compétitions et son corps aura dit stop, quoi. Mais malheureusement, j'ai l'impression que si on en arrive là, peut-être que ça va ouvrir les yeux à certains. Mais très honnêtement, rajouter des compétitions, c'est pas la solution.
Merci Jeannot d'avoir été avec nous. Écoute,
avec grand plaisir.
On te fait confiance. C'est
bon courage Amine.
Tu connais tous les stades d'Europe, donc tu vas trouver un moyen pour nous dégoter des infos RMC Sport pour aller chercher la compo.
Ouais, mais Arthur Perrault, t'inquiète, il y a Valentin Jamin, je suis pas tout
l'équipe
seul.
L'équipe est solide, je le sais.
Oui.
Merci Jeannot.
Bien sur ses appuis, comme dirait.
Exactement.
Comme dirait bien un coach.
Bonne soirée, Jeannot. On parlera de l'équipe de France à 19h. Je remercie Patrick qui est venu au 32-16. Vous aussi, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous appeler pour participer avec Greg Pesley parce que dans un instant, on parle de l'adversaire. Demain soir, l'Italie, est-ce que ça y est, l'Italie est redevenue une grande nation du foot? Ça m'étonnerait que Federico Balzaretti dise le contraire. On verra, il sera avec nous dans un instant, à tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot,
Benoît Boutron.
18h32 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 20h avec Greg Pesley. On parle d'Italie-France, c'est le match qui vous attend demain à suivre sur RMC avec un avant-match dès 20h. On vous rappelle également l'événement de la soirée. C'est ce test match de rugby, la tournée d'automne France-Nouvelle-Zélande. On sera en direct du Stade de France dans une heure. Et surtout, il y aura un avant-match dès 20h avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier et Denis Charvet. France-Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un match à ne pas rater. Coup d'envoi juste après 21h. Mais on parle donc d'Italie-France. On parlera également de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais et sa situation financière dans un quart d'heure. Mais on continue de parler donc du match qui nous attend demain et parlons de l'adversaire des Bleus, l'Italie, leader de ce groupe de Ligue des Nations. 4 victoires, 1 nul contre la Belgique en 5 journées. D'ailleurs, les Italiens viennent d'aller gagner en Belgique jeudi 1-0. Ça met du baume au cœur aux tifosi, forcément, parce que l'Euro avait été compliqué. Je rappelle cette défaite face à la Suisse en 8e de finale. Greg, tu connais parfaitement le championnat et puis on en parle avec un ex-international italien qui est en direct avec nous. C'est Federico Balzaretti. Salut Fede.
Salut à tout le monde.
Merci d'être là, Fédé. Et toi, comment ça va alors?
Ça va, tout va bien.
Bon,
tout va bien.
T'es en Italie?
Je suis en Belgique, donc je suis proche de vous.
Ah, t'es en Belgique, d'accord, ok. T'es allé au match jeudi alors? T'as vu le match au stade?
Ouais, j'étais au match. Bon. J'étais au match, c'est très bien passé.
Ouais.
Très belle victoire. On a très bien joué, premier temps super. Après, on a souffert un petit peu, mais aussi avec l'opportunité de faire le deuxième but. Mais bon, c'est quand même un bon Italie, c'est un bon, bon moment pour nous. On joue bien, on a une équipe jeune. Après l'Euro, comme tu disais, qu'ils étaient vraiment catastrophiques. Dans 2-3 mois, tout est changé. Aussi, c'est rien est changé. Ça veut dire que l'entraîneur, c'est le même, que les présidents de la fédération, c'est le même, mais quand même. L'équipe a un visage complètement différent, a une attitude complètement différente, un système de jeu qui est complètement différent.
C'est vrai.
Et donc, bon, ça marche bien, on joue bien, un beau football avec des agressivités, très bien avec le ballon. Voilà, c'est un système de jeu un peu différent parce que dans l'Euro, on a joué 4-3-3 et qui est un peu le système 4-3-3, 4-2-3-1, qui était un peu le système de Spalletti qui jouait à la Roma et a joué aussi à Naples. Et maintenant, il a changé. On joue, voilà, un peu en 3-6-1 parce que la deuxième attaquant, c'est effectivement un milieu.
Ah oui, c'est ça.
Il avait joué Pellegrini dans les premiers matchs après l'expulsion contre le Belgique. Au match d'aller, cet match contre Bruxelles, il a joué Barella, il a fait un super match. Et donc, cette mobilité dans les milieux, c'est un peu dans les corps du jeu, c'est un peu voilà, la qualité que nous on a. Et c'est difficile à lire pour les adversaires. Et aussi contre vous, le match d'aller au Parc de France, on a fait un très beau match. Hein.
Ah oui, c'est vrai que quel but vent,
c'est
quel
vrai
but que de
les
Di Marco.
Premiers 20 minutes, ouais. Ouais, les buts de Di Marco, c'était magnifique.
Ouais.
C'est vrai que les premiers 20 minutes, voilà, vous pouvez être 2-0 parce que vous avez très bien démarré le match et avez eu l'opportunité de faire le deuxième. Mais après, on a fait 60 minutes vraiment très efficaces. Et ça, tu vois, c'est un peu le match où on a compris la force voilà, de l'Italie, parce que jouer avec cette personnalité, avec ses qualités de jeu au Parc de France contre la France, voilà, ça veut dire qu'il
est une équipe forte.
Et voilà, ça donne de la confiance à tous les systèmes.
Et Federico, donc t'es en direct avec nous. Greg, c'était votre poste à tous les deux. Ouais, ce but de Di Marco, t'aurais aimé le marquer au Parc des Princes, toi, Greg. Hein,
ah oui, j'aurais kiffé, ça c'est clair. Mais quel joueur. En plus, quand il marque, il ne fait pas semblant. Il met que des buts fantastiques.
Ah bah oui, c'est
l'ayant
sûr.
Suivi là pendant sur le championnat italien, parce que comme je l'ai fait pendant 6 ans, les matchs de l'Inter, je les faisais quasiment tous les week-ends.
Ouais.
Extraordinaire. Il est vrai qu'il a changé de système parce que j'ai la sensation qu'il a eu l'intelligence de mettre les joueurs de la manière dont ils jouent en club. Et ils sont dans leur position préférentielle. Mmh. Et ça facilite les choses.
Ouais.
C'est ça, Federer.
C'est ça qu'il a compris. C'est effectivement comme ça. C'est juste, c'est une considération parfaite. Parce que c'est qu'est-ce qu'il a dit effectivement Spalletti. Il a dit, c'était aussi un entraîneur avec beaucoup d'expérience. Mais tu veux faire l'entraîneur et entraîner tous les jours dans un club, c'est complètement différent par rapport à être sélectionneur. Donc, lui, il a dit dans l'Euro, j'ai fait aussi, moi aussi, de la confusion. J'ai fait plusieurs systèmes, j'ai fait mon système, j'ai donné de la confusion. Donc, il a dit, je vois qu'est-ce que ça passe dans le championnat, les systèmes meilleurs pour les effectifs, pour les joueurs qui j'ai. Et aussi, effectivement, comme je t'ai dit, c'est pas son système de jeu. Parce qu'il a quasi jamais joué 37-2 ou 35-1-1. Mais on a fait un interview avec lui à la télévision italienne, moi avec lui à DAZN il y a un mois. Il disait, j'ai voulu donner ce système parce que le championnat me dit ça, parce que les caractéristiques des joueurs, il me dit ça, et parce qu'on avait besoin d'avoir les ballons. On avait besoin d'avoir ce système où il y a plein de joueurs qui sont capables de changer des positions. Tu vois, c'est un peu ils ne sont pas de rôles et des positions qui sont toujours les mêmes. Il y a beaucoup de variations.
Il y a un milieu tournant parce qu'ils sont capables de jouer à tous les postes au milieu.
Il y a quand même un joueur qui se dégage depuis le début de ces matchs de Ligue des Nations, c'est Tonali. L'arrivée de Tonali, l'éclosion après tout ce qu'il a vécu cette année de suspension et tout, il a quand même métamorphosé ce milieu de terrain italien, les gars.
Oui, clairement. Clairement, après, moi, je ne suis pas objectif peut-être, mais moi, j'adore Barella.
Et aussi, Nicolò Barella,
exceptionnel comme joueur. Ouais.
Barella qui n'était pas là, je crois, au Parc des Princes.
Non, il n'était pas.
Ouais,
il était blessé.
Mais les deux, c'est vrai que ça fait deux sacrées forces pour l'équipe italienne. Fede, ce qui a été dit aussi par Spalletti, donc toi, tu suis le foot italien quasiment quotidiennement, donc tu l'as remarqué. Il a dit qu'il s'appuyait aussi sur les clubs de Serie A parce que le niveau de la Serie A était plus relevé en ce moment que ce qu'il l'a été par le passé. Tu le ressens toi aussi qui suis tous les matchs du championnat toutes les semaines?
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup plus d'équilibre. Tu penses que cette saison, il y a 6 équipes avec 3 points de différence.
Mais ça faisait longtemps ça, Fédé. Hein,
ouais,
parce que
le championnat est dans ce
que tu avais 3 clubs qui se détachaient sur les 5 dernières saisons, mais là...
Oui, c'est comme ça. C'est un peu, en Italie, on l'appelle le temps de 7 heures, les 7 sorelles. donc, il y a 7 équipes qui sont plus ou moins au même niveau. C'est vrai que l'Inter, c'est là encore qui est pour moi la
principale candidat
pour gagner le championnat. Et c'est celle-là aussi qui amène plusieurs de joueurs à l'équipe nationale. Mais c'est vrai que le championnat c'est très équilibré, que le niveau est très bon parce que aussi dans les dernières années on a très très bien évolué dans l'Europe. On a les cinq équipes en Champions League,
on a fait des finales de
Coupe d'Europe avec l'Inter, on a gagné avec l'Atalanta, la Rome il a gagné la Conference League, il a fait en finale contre Séville. Donc quand même on a même beaucoup d'équipes dans les dernières années en Europe.
Fédé, je peux te poser une question. Comment tu peux expliquer, parce que si tu regardes bien toutes les équipes fortes du championnat italien, il y a beaucoup de joueurs étrangers. Et ça permet à la sélection d'être forte. Comment tu peux le traduire?
Parce que c'est une bonne intégration. Tu vois, en ce moment, il y a une bonne intégration. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup des étrangers, mais les étrangers aussi, si le niveau des étrangers, c'est important, c'est bon, c'est des talents, c'est de la grande qualité.
Et six joueurs français de l'équipe de France qui sont en Italie.
Ouais. Oui, plein de joueurs. Plein de joueurs, mais les Français avec le football italien, ça marche super bien.
C'est un championnat où il y a le plus de joueurs français qui veulent aller sur les cinq grands championnats.
Alors, explique-nous, toi, Fédé, parce que nous, vu de France, c'est vrai que malheureusement, on a très peu de visibilité sur le championnat italien. Beaucoup de fans de foot se posent la question parce que malheureusement, on a un Marcus Thuram qui a du mal à se faire une place dans cette équipe de France, qui a marqué seulement deux fois depuis qu'il est international, alors qu'en Italie, il est considéré comme un crack. Hein. C'est vraiment un joueur très fort de l'Inter. Comment tu expliques ce décalage, toi, Fédé, entre la vision qu'on a en France et celle qu'on a en Italie, alors?
C'est toujours comme toutes les relations dans les systèmes. Oh, tu m'écoutes?
Oui, bien sûr.
Oui.
Je suis d'accord avec toi.
C'est jamais le seul joueur qui performe bien ou mal.
Ouais.
C'est les systèmes. Le système, ça fait la différence. Et l'Inter, c'est un système qui marche très bien, où lui, il a une considération vraiment très importante. Et je peux te dire, cette année, c'est le joueur plus important de la Serie A. Ah. C'est lui qui a eu l'impact plus grand. Il performe très, très bien dans l'Inter. Moi, je l'ai vu live, l'Inter, quatre fois, il a toujours été le meilleur. Et à niveau physique, il va détruire tous les joueurs, quasi. Voilà, seulement le dernier match contre Naples, contre Buongiorno, qui est un top défenseur, il a eu un peu de difficultés. Mais sinon, il a vraiment en train d'évoluer super bien. Mais l'Inter, tu vois, c'est son équipe.
Oui.
Il se connaît très bien. Et avec les deux là d'avant, c'est son système de jeu préféré. Et il a une considération très importante. Donc, il joue avec, je pense, aussi une confiance très haut.
Et toujours l'histoire de la confiance.
Comme vous disiez, je viens en France, je vais pas considérer, peut-être le système c'est pas le meilleur pour lui, il joue pas, il est toujours en discussion, et ça peut-être est dans sa tête, ça va lui conditionner,
on en parlait, Fédé.
Cette saison, on est en train de
faire. Il a mis 7 buts en série.
Ouais, je pense que.
Moi, j'ai joué avec William à la Juve et je voyais qu'ils étaient petits dans les vestiaires. Donc, c'est bizarre de le voir à ce niveau-là. On le voyait toujours petit à lui, à son frère.
Eh oui, tu l'as vu petit, forcément.
Dans les vestiaires, avec Lilian. Donc, de le voir comme ça, c'est incroyable.
Mais tu as raison. Pour Marcus, il est vrai que j'en parlais juste avant.
Ouais.
Pour moi, s'il doit être titulaire et il doit jouer avec l'équipe de France, il faut deux attaquants. Sinon, il ne pourra pas s'exprimer. C'est pas possible.
Exactement.
Ouais.
Et Fédé, juste avant.
Il faut un attaquant central. Il faut les deux. Avec lui, c'est le meilleur système. C'est
et voilà, il ne peut pas jouer neuf au milieu de deux alliés. Fédé, juste une dernière question pour toi, parce que ça fait aussi débat en France et ça vous concerne, vous, Italien. C'est votre capitaine Gianluigi Donnarumma, gardien de but du PSG, qui est parfois décrié chez nous. On lui reproche un manque de côté décisif en Ligue des Champions, notamment.
Il est sorti aérienne, surtout.
Il est sorti aérienne. Comment est-ce qu'il est perçu en Italie? Est-ce que c'est un intouchable du fait de son statut de capitaine, ou est-ce qu'il commence un peu à être remis en question, Gianluigi Donnarumma?
Non, pour l'instant, il n'est pas mis en question. Aussi, si c'est vrai qu'on a un autre gardien comme Vicario, qui est un des top à niveau européen, qui est en train de performer super bien avec Tottenham. Mais pour l'instant, en Italie, il n'y a pas de discussion, c'est les titulaires. L'entraîneur, il le voit comme les titulaires. Et lui, il est en train de performer super bien. Aussi, contre Belgique, il a fait un très bon match. Donc, non, en ce moment, c'est un des points de force de notre équipe. Donc, c'est un peu Thuram à l'envers.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est marrant.
Il faut changer les cuissons pour le Paris Saint-Germain. Il faut mettre le drapeau italien.
Bon, merci Fédé. On ne te souhaite pas un bon match pour demain, parce que nous, on a envie de gagner.
Bon,
mais
bonne chance.
On te dit à bientôt, en tout cas. Merci Fédé. À bientôt. Federico Balzaretti, qui était notre invité dans l'Intégral Foot. On revient dans un instant. On va faire notre parenthèse Ligue 1 pour évoquer la situation de l'Olympique Lyonnais. Mais on a juste un direct qui vient de démarrer. Vous le savez, on est en plein test match de tournée d'automne. Et on a une magnifique affiche à Twickenham entre l'Angleterre et les champions du monde sud-africains. On suit ce match avec Roxane Lacusca. Salut Roxane.
Salut Benoît, salut à tous. Ouais, c'est parti entre l'Angleterre et les champions du monde en titre, les Sud-Africains, et c'est parti fort. On joue depuis 5 minutes et les Anglais qui viennent d'inscrire le premier essai de cette rencontre avec Slade Holm, lancé par Marcus Smith qui du milieu de terrain en sortie de ruck est venu décaler sur son aile gauche et s'est inscrit en bord de touche, transformé par Marcus Smith. Ça fait 7-0, 5 minutes 20 de jouer à Twickenham.
Merci Roxane, à tout de suite. On revient pour évoquer la situation financière de l'Olympique Lyonnais. On reparle de l'équipe de France dès 19h, notamment de Didier Deschamps. On est là jusqu'à 20h avec Greg Pesley. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron.
18h48 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 20h avec Greg Pesley. On parlera de l'équipe de France d'ailleurs à partir de 19h. On parlera de la situation de Didier Deschamps. Il adore les grands matchs. Est-ce qu'il joue une partie de sa crédibilité demain soir en Italie? 32-16 pour participer au débat. On parle de l'Olympique Lyonnais dans un instant. Mais on vous l'a dit, on suit ce test match, magnifique affiche entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Ça va bien pour les Anglais, Roxane Lacusca?
Ouais, c'est moi qu'on puisse dire. 8 minutes 20 de jouer, 7-0 pour les Anglais qui ont inscrit le premier essai par Holly Slade-Holm qui joue sa troisième sélection aujourd'hui avec le 15 de la Rose. Victoire obligatoire pour les Anglais qui se sont inclinés à trois reprises déjà depuis le... C'est leur troisième match, pardon. Ils se sont inclinés à deux reprises contre la Nouvelle-Zélande il y a deux semaines et contre l'Australie la semaine dernière. Une victoire obligatoire aujourd'hui contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, on le rappelle. Et on joue toujours depuis 8 minutes 52, 7-0 pour l'Angleterre.
Merci Roxane. Opération de communication à Lyon ce matin, une prise de parole de John Textor, le président de l'OL, au lendemain de l'annonce des sanctions prises par la DNCG à l'encontre du club. Je les rappelle, encadrement de la masse salariale, interdiction de recrutement cet hiver et surtout rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison. Aurélien Tiersin nous a rejoint. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Alors quels ont été les arguments ce matin de John Textor pour rassurer un peu les supporters?
Alors déjà, pour John Textor, il n'y a pas de débat, puisque l'OL ne sera pas relégué en fin de saison en Ligue 2. La preuve, le club ne fera pas appel car on ne fait pas appel d'un simple avertissement selon le propriétaire lyonnais. Son regret, en revanche, c'est qu'on rende ce verdict public. Pour rentrer dans le cœur des arguments financiers, selon Textor, il y a un vrai problème de compréhension du modèle financier lyonnais, à savoir un club qui fait partie d'une société multiclub. La DNCG, ce ne sont pas des experts de Wall Street, ça c'est la petite pique de l'américain au passage. La DNCG ne prend en considération que les comptes lyonnais et pas les comptes du groupe dans son entièreté. Il faut mettre tout en commun au sein donc de Eagle Football Holding pour bien comprendre. Ceci étant précisé, le déficit de Lyon s'élèverait à 128 millions d'euros. Mais Eagle Football va vendre près de la moitié du club anglais de Crystal Palace, 200 millions d'euros attendus. Il y aura une cotation en bourse à New York qui devrait rapporter 100 millions d'euros. Et le groupe veut vendre pour 75 millions d'euros de joueurs. On peut par exemple y inclure Igor Jesus, l'attaquant de Botafogo international brésilien. Et ça, il fait partie du groupe Eagle puisqu'il joue à Botafogo. Donc, quels que soient les scénarios, parce qu'évidemment il y a du conditionnel à chaque phrase, quels que soient les scénarios, du cash va rentrer naturellement, ce sont les mots de Textor, donc pas d'inquiétude pour Lyon.
Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est la situation de Lyon. Ça veut dire qu'en termes de vente de joueurs, est-ce que Lyon va se faire plumer cet hiver et participer à l'effort? Est-ce que de grands joueurs lyonnais, enfin ceux qui brillent,
à condition d'avoir les joueurs qui peuvent rapporter cette somme-là?
Exactement.
Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être deux ou trois, non?
Malik Fofana, lui, est un transférable.
Et direct.
Et c'est ça. Donc Malik Fofana est intransférable. À part lui, personne ne l'est. Mais personne ne sera transféré au rabais. Ça, c'est ce que Textor a assuré. Surtout pas Ryan Cherki, qui marche bien en ce moment. Il devait partir pour 15 millions d'euros l'été dernier. Il vaut beaucoup plus aujourd'hui, selon Textor. Et il veut le garder cet hiver. Donc si départ de Cherki, ce sera l'été prochain, selon le propriétaire américain. Ensuite, le club étudiera les offres pour tous les autres. Il y a 6 joueurs de trop, selon Textor, dans l'effectif. Des départs sont donc à prévoir. Et dernière chose à prendre en compte, il y a des fins de contrat importantes à venir en 2025. Lacazette, Anthony Lopez, Nicolas Tagliafico, eux trois, déjà, ça fait 15 millions d'euros annuels à économiser.
Donc, Anthony Lopez, qui est ton quatrième gardien, tu peux pas le vendre parce qu'il est en fin de contrat en 2025.
Exactement. Donc, ou alors pour janvier, quelques centaines de milliers d'euros à peine cet hiver.
Ça veut dire qu'il s'engage où il veut à partir de janvier pour l'année d'après. Ouais. Est-ce que Lyon est en danger pour toi, Greg? Est-ce que ça t'inquiète tout ce que tu entends sur la situation financière de l'OL?
D'un point de vue général, c'est inquiétant parce que ça reste une entité forte du football français. Et voilà, on sait très bien tous les cas qu'il y a eu dernièrement, ces dernières années, entre Bordeaux, après, à moindre mesure, il y a eu des Strasbourg, des... Enfin, voilà,
Sochaux.
Il y en a eu, hein. Il y en a au moins une dizaine de clubs. Mais on a en droit de s'inquiéter quand on entend les sommes citées par Aurélien. À un moment donné, tu te dis, ça peut être compliqué parce qu'il a l'air serein, mais avec des sites, tu refais le monde.
Ouais. C'est ça.
Donc non, attention,
avec
ça n'arrive pas qu'aux autres.
De dire on a 29 joueurs, on peut limiter le groupe à 23-24 joueurs. Il pense qu'il va vendre les joueurs qui ne jouent pas à une haute valeur, mais ça c'est, ça n'arrive jamais.
Il estime entre 15 et 40 millions d'euros.
Il n'y a que des suppositions en fait.
Donc Orban qui joue pas un match, tu vas le vendre 20 millions d'euros.
Et même, non, alors, tout le monde se base sur Transfermarkt, le site de référence sur internet. Ouais. Et Gift Orban, il est évalué à 15 millions d'euros. Mais est-ce que c'est vrai qu'un joueur qui ne joue pas du tout aujourd'hui, tu peux le vendre à 15 millions cet
hiver? Et puis les clubs qui viennent toquer à la porte, ils connaissent la situation de Lyon, ils savent que Lyon doit vendre, et est-ce qu'ils vont céder? Comme ça.
Ben non, justement, ils vont faire des offres à la baisse.
C'est le jeu,
l'offre et la demande.
On vendra personne au rabais, justement. Il a voulu dire non, arrêtez avec ces mauvaises nouvelles, ça n'existe pas.
Ouais, mais vaut mieux vendre au rabais que pas vendre du tout.
Ah oui.
Donc, et à un moment donné, que la qualif en Ligue des Champions pour lui en fin de saison est quasiment vitale, hein, parce que là aussi c'est budgété, donc il va falloir.
Déjà, la Ligue Europa, mine de rien, ça les sauve aussi déjà cette saison, parce que c'est arrivé un petit peu au dernier moment la saison dernière.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on pensait les Lyonnais sortis de leurs problèmes, ils sont cinquième du classement de Ligue 1 à deux points du podium, et là, ils ont les problèmes financiers qui tombent avec le contrôle de la DNCG sans possibilité de se renforcer cet hiver. Avant d'accueillir Amine, supporter lyonnais au 32-16, le score a évolué au rugby. Ce test match magnifique entre les Anglais et les Sud-Africains, Roxane Lacusca.
Égalisation par les box. Grant Williams qui vient inscrire à lui tout seul un essai entre les poteaux pour les Sud-Africains. Ça fait 7 partout, on joue depuis quasiment un quart d'heure. L'essai, il est allé le chercher tout seul. Sortie de ruck, il a éliminé pas moins de 6 défenseurs tout seul et il a filé entre les poteaux, facilement transformé par Manny Liboc derrière. Ça fait 7 partout entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Presque un quart d'heure de jeu à Twickenham.
18h54 sur RMC l'Intégral Foot. On parle de la situation financière de l'Olympique Lyonnais et on accueille Amine qui a composé le 32-16. Salut Amine.
Salut les gars.
Salut Amine. Salut.
Amine, t'es rassuré par le président de ton club? Tu te dis, ah, c'est bon, John a parlé, tout va bien, je suis confiant, c'est bon.
Ouais, voilà. Après, bon, rassuré, on ne peut pas dire qu'on est rassuré, parce que c'est des paroles, en fait, c'est des paroles de politique, en fait. C'est, voilà, c'est de la politique, c'est, voilà, ne vous inquiétez pas. On sait qu'en politique, quand quelqu'un ne vous inquiétez pas, derrière, il faut se poser un petit peu.
Oui, il ne peut pas tenir notre discours, de toutes les manières.
Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Après, bon, nous, en tant que supporters, on veut se rassurer comme on peut. Dans le sens où l'année dernière, bon, il avait dit, voilà, on va se maintenir, tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui nous voyaient déjà descendre en Ligue 2. Ça, je parle de l'aspect sportif, hein, c'était pas financier. Ouais. Après, on avait quand même la DNCG qui était un peu derrière nous par rapport au recrutement. Au final, on a pu recruter. Donc, il y a certaines choses qu'il avait dit à l'année dernière qui ont pu se passer. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un nouveau cas, parce que là, on a carrément c'est peut-être qu'on risque d'être en Ligue 2.
Rétrogradation administrative, à titre conservateur.
Voilà, voilà, exactement. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire entrer de l'argent, si je suis les faits. C'est-à-dire que là, je vois qu'il peut y avoir la vente de parts de Crystal Palace à 45%.
Ouais.
J'ai vu qu'il y a des joueurs comme Maxence Cacré qui peuvent partir à 15 ou 20 millions.
Wow, ça serait bien vendu.
Après,
hein.
Ouais, non, mais bien sûr, bien vendu. Mais derrière, ça peut être de l'argent qui rentre. Ryan Cherki, quand on voit le match qu'il fait hier soir avec les Espoirs, on peut aussi se dire, voilà, on peut partir.
Ouais, mais Amine, t'as pas peur de t'affaiblir, en fait, en vendant des joueurs
Que déjà, Ryan Cherki, il faut savoir qu'au même poste que lui, normalement, c'est déjà acté sur le papier, il va avoir Thiago Almada de Botafogo qui doit venir. Je ne sais pas après exactement ce qu'il vaut, mais je sais que c'est le même poste et que, voilà.
Il va falloir s'intégrer en 6 mois.
C'est ça.
Il peut pas. Oui, c'est vrai que l'intégration, ça ne va pas être facile, mais faudra. On va dire que tout ça, c'est tout ce qui est du mental. Et moi, j'ai confiance au coach Pierre Sage qui a possibilité de faire travailler cette chose-là. Mais aujourd'hui, sur l'aspect sportif, on peut dire que si dans la tête, les joueurs lyonnais, ils savent la situation que l'OL est actuellement, je pense qu'ils vont encore plus se battre sur le terrain pour dire, voilà, le club que j'ai été formé dedans, je vais tout faire, parce que on a les cadres comme Tolisso, Lacazette qui sont là pour le club. Ils vont tout faire pour que on va dire l'aspect sportif soit là.
Ouais, mais c'est pas une pensée un peu du monde des bisounours, ça?
C'est intéressant ce que dit Amine, et on peut s'appuyer sur Greg, ton expérience personnelle, parce que toi, tu étais très attaché aussi à ton club formateur, le Paris Saint-Germain. Tu penses que le fait, pour des joueurs comme Tolisso, Lacazette, les gars formés au club, Cherki, savoir que le club est dans une situation financière un peu délicate, ça peut être un surplus de motivation pour encore plus parfait en championnat. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre ou non, ça change rien pour un joueur?
Non, parce que je pense que ces deux exemples-là pourraient mourir sur le terrain pour l'Olympique.
Oui, déjà. Oui, avant déjà. Même la situation oui, financière donc, délicate.
C'est pas valable pour ces deux éléments-là. Après, pour les plus jeunes, peut-être. Parce que c'est une réelle prise de conscience qu'il faut avoir par rapport à la survie d'un club. Et on parle que l'aspect sportif, mais derrière, il y a tous les salariés du
bien
club.
Bien sûr, évidemment.
Donc, ça engendre énormément de choses. Mais non, sur ces deux cas, non, je pense pas.
Ils n'ont pas besoin de ça pour être autant attachés au maillot de l'OL. On l'a vu d'ailleurs pour les célébrations après la victoire dans le derby contre Saint-Etienne lors de la dernière journée. Merci à Amine qui est venu au 32-16. Amine, tu rappelles quand tu veux pour intervenir sur RMC. 18h58, le score a de nouveau évolué. On a vraiment un super match entre Anglais et Sud-Africains, Roxane.
Une rencontre de gala entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, 17 minutes de jouer et les Sud-Africains qui viennent de marquer leur deuxième essai de la rencontre, ça fait 10-12 pour les Sud-Africains. Les Sud-Africains qui viennent d'inscrire un essai un peu remarquable, double contre les Anglais, d'abord Eben Etzebeth puis Peter Dutoit qui est allé tout droit ensuite marquer un essai. Donc ça fait 10-12 pour l'Afrique du Sud, on joue depuis 17 minutes.
Merci Roxane, je remercie Aurélien Tiercin qui est venu nous éclairer, nous traduire le John Textor. Bravo Aurélien.
Salut.
Magnifique.
Merci.
Et dans un instant, on reparle de l'équipe de France. On va retourner à Milan, retrouver notre cellule équipe de France. Valentin Jamin sera là. On parlera de Didier Deschamps. Est-ce qu'il joue une partie de sa crédibilité sur ce grand match demain, Italie-France? A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h01 sur RMC. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'Intégral Foot. On est là jusqu'à 20h avec la légende parisienne Grégory Pestet à mes côtés. Un vrai
Titi
parisien.
Oui, voilà, ça c'est mieux.
Bah oui, mais c'est vrai. Un vrai
Titi parisien. Plus en adéquation. Oui, il n'y en a pas beaucoup.
Et en plus, un spécialiste du foot italien, et ça tombe bien pour cette spéciale Italie-France. On reparle de l'équipe de France dans un instant. On aura un invité à 19h25, Yacine Adli, un joueur français qui brille à la Fiorentina, qui est troisième de Serie A. On pourra lui demander justement le regard qu'il porte sur le foot italien et sur notre équipe de France. Et puis on parlera plus précisément du match qui nous attend demain, de l'adversaire italien, la compo d'équipe avec Johan Crochet, notre drôle de dame italienne. Le direct du moment, on l'a dit, c'est du rugby avec cette affiche de rêve entre l'Angleterre et les champions du monde sud-africains, Roxana Kuska.
Et vous arrivez à pic, messieurs, troisième essai pour l'Afrique du Sud, inscrit à l'instant par Cheslin Kolbe sur son aile droite. Les Sud-Africains qui dominent cette rencontre, on joue depuis 22 minutes presque et ils dominent de toute leur puissance. Ils ont vraiment pris le dessus sur cette rencontre. Au début, c'était les Anglais qui se sont vite imposés en marquant le premier essai de la rencontre. Mais là, les Sud-Africains ont pris le dessus. 17-10, on joue depuis 22 minutes. Transformation à suivre pour Manny Libok.
Eh ben écoute, tu nous tiendras informés de la transformation, mais vraiment on se régale entre Anglais et Sud-Africains. Ça c'est un sacré test match. On espère que ce sera le cas également ce soir. On le rappelle, France-Nouvelle-Zélande avant match dès 20h dans l'After Live avec la Dream Team, Christophe Cessieux, Wilfried Templier et Denis Charvet. D'ici là, on continue de parler de France-Italie. On parle des Bleus qui sont à Milan avec Valentin Germain qui est au plus près de l'équipe de France. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Dans le brouillard italien, c'est bien ça, Valentin?
Ah oui. Moi, je m'attendais au soleil. En fait, je vois même pas le stade alors que je suis à 3 mètres.
C'est terrible. Époque-là,
c'est fou. C'est fou. Écoute, en tout cas,
on va souffler. Demain, il y aura plus.
Et puis, t'as la chance d'être à San Siro, qui est un des plus beaux stades d'Europe. Valentin, t'as assisté à la conférence de presse cet après-midi de Konaté et de Didier Deschamps. Justement, on a parlé de l'importance de ce match. Ça va être le thème de notre débat, mais Deschamps adore les grandes affiches. Et là, il sera servi demain. En plus, les deux nations sont qualifiées. On a tout pour qu'on puisse réagir après notre match moyen face à Israël jeudi.
Oui, il y a aussi ça, parce qu'effectivement, la France reste sur un triste 0-0 face à Israël depuis l'Euro et même depuis la rentrée au niveau du jeu de l'équipe de France. On a vu beaucoup de critiques. Il y a eu la défaite face à l'Italie dès septembre 3-1. On avait vu une équipe de France apathique. Et puis, il y a aussi l'aspect comptable, parce que la France est qualifiée pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations. Mais la France, pour l'instant, est deuxième. Pour être première, il faudra battre l'Italie par au moins 2 buts d'écart. Donc, c'est un match qui comptablement est important, qui symboliquement est important, parce qu'il faut finir cette année 2024 par une victoire, parce qu'on l'a dit dans le contenu, dans ce qu'a produit l'équipe de France dans le jeu, ce fut assez pauvre. On le voit, les audiences d'ailleurs sont en baisse, et pourtant Didier Deschamps a un petit peu relativisé tout ce constat. Vous savez ce mot réoxygénation, amener de nouveaux joueurs. Et bien écoutez, Didier Deschamps, c'est ce qu'il pourrait de nouveau faire.
Je pense, on est deuxième au classement FIFA, on a été demi-finaliste de l'Euro, on fait une Nation League où j'ai décidé de, parce que ça me semble important de mettre des joueurs plus jeunes qui ont moins d'expérience. Évidemment, ils vont pas avoir le rayonnement que peuvent avoir des joueurs qui ont plus d'expérience et ça nuit certainement à l'expression collective. Mais malgré tout, on est là. Alors après, vous pouvez élargir, mais je vais pas considérer le match de demain plus important. Tous les matchs, il y en a que 5, mais j'amènerai des changements pour le match de demain parce que j'ai besoin de voir les joueurs avec du temps de jeu.
Voilà, c'est peut-être aussi une manière de ne pas trop se fragiliser par les résultats. Hein. Didier Deschamps, qui a toujours été un pragmatique du résultat, peu importe la manière, et bien là, c'est un petit peu le contraire. Il dit, oui, mais j'essaie de construire, j'essaie de faire quelque chose avec de nouveaux joueurs. Il devrait le faire demain. Effectivement, on aura les informations dans quelques minutes sur rmcsport.fr face à l'Italie. Et puis, il a aussi été questionné peut-être sur une certaine lassitude. Le public, on va dire, est lassé. Il y a un petit peu moins de suiveurs des Bleus. Lui dit qu'il est toujours à fond dans le projet, qu'il continue d'aimer le défi et surtout qu'il continue d'apprendre.
Mais j'apprends tous les jours. Moi, je me lève le matin et je me dis une chose. Je sais que je ne sais pas. Il y en a qui se lèvent et disent « je sais ». Mais ce n'est pas mon cas. Et je peux apprendre pas forcément d'une personne qui est plus âgée que moi. Ça m'amène à réfléchir et peut-être à changer. Ou voilà, les priorités changent aussi. Voilà, l'environnement n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans, bien évidemment. Je m'adapte, mais faisant en sorte de garder toujours la même tranquillité, la même sérénité. Et ce qui est important, c'est la même envie.
Ça, c'est de l'expérience, Greg Pesley. Tu démarres par ton bilan. On est deuxième au classement FIFA. On sort d'une demi-finale à l'Euro. Ensuite, tu parles de l'importance des matchs. Tu dis, bon, on est qualifié pour les quarts de Ligue des Nations. Donc finalement, on a fait le boulot et tous les matchs sont importants. Et puis après, tu dis, je suis pas buté. Voilà, je continue à apprendre. Il est fort, ce DD en
com. Ah, mais ça, comme, c'est l'une de ses forces. C'est une réalité. Maintenant, pas étonné par ce qu'il nous dit. Mais après, aujourd'hui, c'est le résultat qui compte, c'est une réalité. Ah oui, dans le sport de haut niveau, on ne retient que le résultat. Mais pour Deschamps, je pense que c'est vraiment l'inverse. Parce qu'il a un déficit de popularité, entre guillemets, quelque part. On a du mal à suivre cette équipe de France parce que ce qu'elle nous propose ne nous plaît pas.
C'est vrai. Mais alors, c'est pour ça aussi qu'on se pose cette question en veille d'Italie-France. On fait réagir à Valentin Jamin, on vous attend en 32-16. Mais pourquoi on parle de crédibilité pour Deschamps? Parce qu'on l'attend sur ses grands matchs. Lui, il nous a habitués à pas bien jouer au foot, mais à être présent sur les grands rendez-vous.
Ouais, mais j'aimerais
faire gagner en Italie.
J'aimerais faire juste un distinguo. Voilà.
Ouais.
Est-il préférable de voir du Deschamps depuis 12 ans en s'imposant en Italie, ou éventuellement faire nul ou perdre, mais avec un contenu qui, on va dire, waouh, enfin.
Honnêtement, ce qu'on préfère demain, c'est voir du contenu. On est déjà qualifié pour les quarts de Ligue des Nations.
Même si on perd.
On veut se faire plaisir, c'est sûr. Mais tu sais que si on gagne, on se dira « Ah, quand même, les grands matchs, il arrive à les gagner. » Tu vois, c'est...
Ouais, mais on le sait presque.
Ouais.
Mais si on le perd en jouant bien, ça le fragilise sur le plan des résultats. Parce que je regardais un petit peu, là, par exemple, il y a eu 15 matchs cette année.
Mais est-ce que c'est
7 victoires, donc c'est pas énorme. Et en 2022, c'était une des, on va dire, des pires années, même s'il y avait eu la Coupe du Monde, mais l'année avait été difficile, notamment en Ligue des Nations. Il y avait eu 8 victoires en 15 matchs. Là, on est à 7 victoires en 15 matchs, donc ça pourrait être un des pires bilans sous l'ère Deschamps. Donc si on joue bien demain, mais qu'on perd 2-1, est-ce que Deschamps sera pas plus remis en question que si on gagne 1-0 en étant moyen?
Ouais, c'est possible, bien sûr. T'es qualifié, donc tu peux aussi essayer de mettre d'autres choses en place. Il y aura des changements, quoi qu'il arrive. Il l'a annoncé. Et en plus, on a des joueurs qui sont absent ou incertain, on a par exemple Kamavinga qui est suspendu. Valentin, juste un mot sur le contexte, parce que toi t'es au plus près de l'équipe de France, donc t'as assisté à ces deux conférences de presse. On a senti, pas de la retenue, mais une position sur la défensive, c'est ce qui ressortait quand on regardait la conf comme ça de l'extérieur. Toi t'étais dans la salle, donc peut-être que tu l'as senti différemment, mais est-ce que c'est ce que t'as ressenti de l'attitude de Konaté et même celle de Deschamps? Tu sais, l'envie d'en dire le moins possible, l'envie de se protéger, l'envie d'être un peu sec sur les réponses aux questions un peu agaçantes. C'est le sentiment que t'as eu toi aussi, Valentin, ou pas?
Oui, c'est vrai. Alors, Konaté un peu plus détendu que Didier Deschamps, mais Konaté est très à l'aise dans l'exercice de la conférence de presse. Mais déjà, on a senti qu'il y avait eu ce qu'on appelle les éléments de langage distribués, notamment sur le match face à Israël, où en fait, on nous a dit, Konaté, il a dit après le match, juste à chaud, globalement, on n'a pas été bon, c'est un petit peu indigne de l'équipe de France. Et puis là, il vient nous dire ce soir, non, en fait, on a juste manqué d'efficacité. Donc, on sent quand même que ça a été discuté en amont. On essaie de faire un petit peu passer les choses. Mais oui, tu as raison. Didier Deschamps sait qu'il est critiqué, sait qu'il est pas mal remise en question. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026, hein. Il faut le rappeler, donc c'est encore long, encore on va dire un an et demi, un petit peu plus en fonction de la Coupe du Monde à l'été. Et la première d'ailleurs question ce soir en conférence de presse, c'est est-ce que voilà, fin 2024, est-ce qu'après 12 ans de mandat, vous vous sentez toujours aussi prêt à aller au combat, vous renouveler, est-ce que vous n'êtes pas lassé, voilà. Et lui, il le sait, Didier Deschamps, il y a aussi un contexte, l'absence de Kylian Mbappé, il y a pas mal d'extra sportifs autour de l'équipe de France liés à tout ça, et effectivement dans sa communication parfois il se replie un petit peu sur lui-même, il est effectivement sur la défensive, effectivement les réponses sont assez courtes, vous savez des fois il coupe les questions avec un petit sourire en disant bah, ouais. Je l'attendais celle-là,
ouais,
c'est un petit peu du Deschamps dans le texte, donc tu as raison, dans les discours on sent quand même qu'effectivement l'équipe de France n'est pas au plus haut et qu'il y a de la méfiance.
Ouais, qu'on défende, que l'on soit pro Deschamps ou pas, il est vrai que même pour lui aujourd'hui il est dans une phase qui est très compliquée. T'es amputé de ton meilleur joueur.
Oui. Dans une histoire délicate à gérer en termes de com, d'ailleurs.
Voilà. Donc ouais. Il est en plein dedans.
Ouais.
Après, il y a toujours cette histoire du nombre de matchs, de calendrier qui est surchargé. Il y a beaucoup de choses à gérer en fait. Et en plus, on te demande de très bien jouer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le reproche que l'on fait à Deschamps. Ouais. Avec le matos qu'il a sous la main, il doit être en capacité de mieux faire. Donc, il est dans une situation délicate. Et il est vrai que quand il se pointe devant la presse, bah, on va l'allumer hein, par rapport à ça.
Mais encore une fois, t'écoutes ce que te dit Konaté par rapport à jeudi. Il y a peut-être des éléments de langage, comme disait Valentin, mais il te dit, le rythme était là. Il a été relancé là-dessus. D'ailleurs, on lui a dit, mais.
Ouais, il n'a pas aimé la question.
À part l'efficacité, il n'a rien manqué. Il a dit, bah non, il a manqué quoi? Après, il a eu le ballon.
C'était un match en bois. Sincèrement, quand tu
joues. Alors, ça aussi, ça compte.
C'est une catastrophe. Vous voulez avoir un adversaire de grande qualité où il y a des espaces.
Et le contexte. Parce que tu avais un Stade de France qui n'a jamais eu une aussi basse avec 16 000 spectateurs qui étaient présents. On ne va pas rappeler le contexte qu'il y avait autour de ce France-Israël, une sécurité maximale, etc. Là, tu vas aller à San Siro devant 68 000 spectateurs, un stade plein, deux grandes équipes, une revanche à prendre par rapport à une équipe qui est venue de battre chez toi au Parc des Princes.
Tu as des arguments qui
sont
tout autres.
Là, tu as un surplus de motivation naturelle, c'est ce que je voulais te dire.
Je parlais d'activation mentale, moi je pense que demain, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là.
Donc là, tu vas la sentir normalement.
Bah là, oui, tu dois le faire.
Ouais.
Tu dois le faire. Maintenant...
Et puis, ce qu'a dit Konaté aussi, ce qui était intéressant en conférence de presse, parce qu'on lui a demandé voilà, si la motivation était toujours la même. Et alors Greg, tu pourras, moi j'ai pas été joueur de foot, je suis pas passé loin, mais j'ai pas été joueur de foot professionnel. Mais non, je suis passé très très loin. Mais voilà, il dit on joue énormément de matchs. La Ligue des Champions, le championnat, Konaté joue le titre avec Liverpool. Tu te retrouves, il l'a pas dit comme ça, mais tu te retrouves au Stade de France face à Israël, 80e nation mondiale devant 16 000 personnes, avec 5 changements par match entre les deux matchs en équipe de France. C'est difficile avec les objectifs individuel que chacun a, d'être toujours au top. Il a un petit peu aussi justifié ça comme ça. Est-ce que ça peut s'entendre? Probablement.
Ben oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça s'appelle l'activation mentale. Il y a des rencontres où tu dis, c'est pas évident. Alors tu restes professionnel, tu fais le métier, mais c'est pas évident. Et d'autant plus quand tu joues l'Israël, alors sans leur faire offense. Ça doit être la 70e ou 80e nation mondiale.
Ah,
au classement.
Plus que ça, je crois. Ouais, 80e.
Ouais, donc voilà, j'étais sympa. Ouais. Mais en plus, ils jouent avec 5 défenseurs, 4 milieux juste devant. C'est injouable. C'est injouable.
Et. Est-ce qu'on a des bribes d'informations comme ça sur la compo qui pourrait être alignée demain? Valentin, je l'ai dit, Kamavinga sera absent. Il y a quelques absents d'entraînement d'ailleurs. Hein. Tu as les infos, est-ce que tu peux nous les donner?
Alors Kamavinga, lui, est suspendu demain, donc on est sûr de ne pas le voir sur la pelouse. Jonathan Clauss ne s'est pas entraîné avec le reste du groupe. Il était absent notamment lors des 15 premières minutes ouvertes à la presse. Et puis Théo Hernandez est resté en salle. Il est vraisemblablement arrivé déjà au rassemblement avec un petit coup au genou. Donc discussion ce soir avec Didier Deschamps pour savoir s'il est apte ou pas pour demain. De toute manière, sur ce poste de latéral gauche, la grosse tendance, c'est Lucas Digne qui a beaucoup séduit le staff lors des deux derniers rassemblements, qui est en sélection depuis 2014. Ça fait un taulier sur le terrain. Il devrait jouer d'entrée demain. Lucas Digne, Saliba pourrait ou devrait même incorporer la défense centrale, peut-être à la place d'Upamecano, puisque Konaté s'est présenté en conférence de presse. Voilà pour les changements attendus en défense. On attend aussi que Rabiot s'incorpore au milieu de terrain en titulaire pour la première fois depuis la demi-finale de l'Euro. Un petit peu plus dur de savoir comment ça va se passer en attaque. Est-ce que Marcus Thuram va être titularisé dans son entre de San Siro à la place de Kolo Muani? C'est possible. Coman a beaucoup plu au staff lors de son entrée face à Israël, mais c'est encore un petit peu flou en attaque. Mais en tout cas, voilà, derrière, a priori, Digne, Saliba devrait intégrer la ligne, et puis le retour attendu comme titulaire d'Adrien Rabiot. Il y a un petit doute également sur Kanté ou sur Guendouzi pour savoir qui pourrait commencer, voire Manu Koné. Donc on attend les derniers enseignements ce soir.
Greg.
Oui, par rapport à Lucas Digne. Enfin voilà, nous sommes tous sélectionnaires à un moment donné. Hein.
Ouais.
On est 67 millions.
Ouais.
Maintenant, ce choix de mettre Lucas Digne demain, moi j'aurais inversé. J'aurais mis Lucas Digne contre l'Israël et mettre Théo dans son ordre.
Mais exactement. Il est capitaine de l'AC Milan.
Et en plus, il aura un joueur qu'il va connaître en face. Enfin, il connaît tout l'environnement. Et puis, je pense que Théo aurait pu s'exprimer davantage demain.
Ouais,
il y aura plus d'espace.
Bien sûr.
Enfin, je sais pas. Ce sont des choix comme ça qui peuvent être remis en cause aussi.
Tu vois la différence, Valentin, entre un mauvais footballeur amateur comme toi et un vrai arrière gauche comme ça de métier qui a fait une carrière professionnelle. Bah ouais, ça il l'a senti.
On met absolument pas ça en question. Hein. On est complètement d'accord.
Juste avant d'accueillir Garen, justement, qui va participer au débat au 32-16. L'autre question qu'on se pose, même si on a peut-être quelques indications, c'est qui sera capitaine demain, Valentin. Est-ce que le fait de voir Konaté en conférence de presse, ça fait de lui un capitaine probable pour cette équipe de France?
De toute façon, a priori, il est dans les deux, on va dire. Il est vice-capitaine, en fait. Il l'avait été lors du dernier rassemblement. Il n'y avait ni Kanté ni Mbappé. Ça avait été Tchouaméni et derrière Konaté qui avait pris le brassard lors de la sortie de Tchouaméni. Tchouaméni, là, n'est pas là. Mbappé n'est pas là. Donc, Konaté, s'il n'y a pas N'Golo Kanté, sera capitaine. Et d'ailleurs, effectivement, tu as raison, c'est toujours un symbole, hein, le joueur qu'on envoie en conférence de presse en veille de match. Donc, tout va dépendre, a priori, de la présence ou non d'N'Golo Kanté sur la pelouse demain soir. Mais c'est une possibilité tout à fait de voir Konaté capitaine. Konaté qui est devenu un vrai leader dans cette équipe de France, un cadre par l'attitude, par le jeu, les performances, mais aussi par la parole. Et on sait aussi que Didier Deschamps aime bien, entre guillemets, l'envoyer en conférence de presse parce qu'il a la capacité de répondre posément et calmement à toutes les questions. Donc c'est très possible de voir Konaté capitaine si Kanté ne joue pas demain.
Drôle d'histoire pour Konaté, hein, qui avait été un pilier de l'aventure en Coupe du Monde 2022, qui n'a pas joué pendant l'Euro et qui est de retour dans cette équipe en tant que titulaire en équipe de France. Avant d'accueillir Garen, petit détour par Twickenham parce que Roxane continue de se régaler avec cette Angleterre-Afrique du Sud. Roxane Lacusca.
34e minute de jeu, les Sud-Africains qui mènent toujours 19 à 17 contre l'Angleterre. Les Anglais qui ont inscrit un deuxième essai à la 26e minute par Sam Underhill, le troisième ligne anglais, servi par son demi de mêlée. Il a inscrit son essai sur la ligne à droite des poteaux, transformé ensuite par Marcus Smith. Ça fait 19-17, 34 minutes de jeu bientôt. En tout cas, on se régale, c'est très équilibré et très serré entre les deux équipes.
19h16 sur RMC, l'intégral foot jusqu'à 20h avec Greg Pesley, avec Valentin Jamin qui est en direct de Milan et avec Garen qui a composé le 32-16. Salut Garen.
Et bonsoir tout le monde.
Salut.
Bon, Garen, on est tous excités par cette Italie-France demain. Ça reste une belle affiche du football international. C'est le dernier match des Bleus en 2024. Est-ce que pour toi, Deschamps joue une partie de sa crédibilité demain soir? Il aime bien les gros matchs contre les grandes nations. Est-ce que tu l'attends au tournant?
Bon, alors déjà, excité, c'est un grand mot, je pense. Parce que.
Ok, ça c'est fait.
Italie-France quand même.
Il faut faire votre affiche. Mais sincèrement, c'est devenu très compliqué de regarder cette équipe de France depuis quelques mois et surtout quelques années, j'ai envie de dire. Bon, on va dire que bon, on a fait quand même des bonnes compétitions, mais c'est vrai que même autour de moi, on perd plus personne dans l'équipe de France.
C'est pas emballant.
Au moins celui-là, non, Garen?
Pardon?
Au moins celui-là, cette Italie-France quand même, non?
Au moins celui-là, peut-être, à la rigueur. Mais en fait, c'est même pas l'affiche qui fait... L'affiche fait rêver sur le papier. Mais en fait, c'est la qualité du jeu qu'on a. C'est la qualité de l'effectif aussi. Hein, parce qu'il faut dire ce qu'il est. Je trouve qu'on a... sincèrement, je pense qu'on va avoir un trou générationnel. On s'est reposé sur Kylian Mbappé pendant quelques années. Je pense que Deschamps s'en est bien sorti grâce à Kylian Mbappé. Mais depuis, on le voit très bien. Ça coïncide bien avec le... Là, on va dire que la descente pas aux enfers, mais bon, le manque de Kembapune est moins présent sur la scène internationale et ça coïncide bien avec la chute un peu de Deschamps, j'ai envie de dire, parce que du coup, il s'appuie moins sur lui et le collectif n'est pas là. Le jeu de Deschamps, on connaît tous. C'est d'aider la gagne, c'est un bloc équipe et puis arrivera ce qui arrivera. Et voilà, moi je pense que Deschamps aurait dû partir il y a déjà quelques années. Il fait pour moi quelques années de trop et là le problème ça va mal finir comme ça. Moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille, comme ça c'est mal fini avec nous alors que ça avait très bien commencé. Et voilà, le problème il est là, c'est des gens qui veulent rester 15 ans 20 ans pour pas laisser la place aux autres et derrière ben voilà.
Après Garen, on la connaît la problématique et il l'a dit dès le début de son intervention en conférence de presse aujourd'hui, c'est que les résultats malgré tout sont toujours là. On est deuxième au classement FIFA, on a fait demi-finale à l'Euro, le jeu est pas flamboyant, on est d'accord. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a fait, et je vous pose la question à tous d'ailleurs, à toi aussi Greg et à toi Valentin, on a fait le débat hier dans Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten, Manu Petit, Jean-Michel Larquet. On s'est demandé justement si ceux qui avaient ce fantasme de changement de sélectionneur, le fantasme Zidane, tu vois, de voir Zidane débarquer sur le banc des Bleus, eh ben ils se trompaient pas en fait. Est-ce que c'est pas un problème problème avant tout de joueurs, de potentiel, de talent. Garen, pour toi, t'es un peu partagé, j'ai l'impression. T'en as marre de Deschamps, mais tu dis qu'il n'y a pas un réservoir énorme, quoi.
Bah ouais, je pense que c'est un peu sa faute aussi. Il a trop axé ses joueurs sur des qualités qui ont fait que certains joueurs ont fermé la porte naturellement à l'équipe de France. Il a trop axé ses qualités sur le physique, sur il faut jouer des matchs de Champions League pour être sélectionnable, etc. Et je pense que ça a fermé la porte à pas mal de joueurs.
Mais tu mettrais qui d'autre en équipe de France? Est-ce qu'il y a des joueurs auxquels tu penses quand tu dis ça?
Il faut aller chercher des joueurs qui jouent dans le championnat de Ligue 1, qui sont des très bons joueurs de club. Voilà, je sais pas.
Comme Alex Melou?
Pourquoi pas? Ouais, c'est rigolo, mais pourquoi pas?
À Cliouche.
On en parle d'un Cliouche, mais de jeune aussi encore.
Et qui joue la Coupe d'Europe d'ailleurs, donc il remplit les critères.
Qui peuvent être sélectionnables, quoi. Donc, je trouve qu'il a fermé la porte à pas mal de bons joueurs de Ligue 1 qui auraient pu avoir leur place en sélection. On peut pas qu'à Ligue 1 d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous répondez à cette question, toi, Greg? Est-ce qu'on est persuadé qu'avec un autre sélectionneur, on jouerait mieux?
Non,
on ne sait pas en fait.
Non, on n'a aucune garantie. Aucune garantie. Après, je pense pas que ce soit une histoire de potentiel ou pas. Parce qu'il y a certaines équipes qui ont flambé sans avoir les meilleures individualités. Sauf que tu as réussi à créer un collectif. Parfois, tu n'as pas les meilleurs joueurs, mais tu arrives à trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bonne complémentarité entre les joueurs. Ils parlent le même football.
Ouais.
Et ça simplifie le jeu collectif, ça le fluidifie, et ça donne un rendu et une copie très intéressante. Et alors que parfois, tu as une somme d'individualités, ça ne donne rien. Mmh. Alors que tu as peut-être les meilleurs joueurs à leur poste. Donc, c'est un tout. Mais il est vrai que l'ombre de Zidane qui plane au-dessus de cette équipe de France, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'années. Et je ne sais pas si c'est un gage de réussite.
Bah ouais, on verra. En tout cas, Zidane qui n'a pas entraîné depuis 2021, c'est vrai que cette ombre plane toujours au-dessus de l'équipe de France. Toi, Valentin, tu dois le vivre parce que les questions sont rarement posées directement comme ça à Deschamps, mais il sent bien que ça pousse derrière, forcément.
Oui, évidemment, et on sait qu'en plus il n'aime pas trop quand est évoqué le nom de Zinedine Zidane, même si avec ce contrat encore une fois jusqu'en 2026, on a du mal à voir, hormis un départ par lui-même de Didier Deschamps, un changement, parce que voilà, ça coûte cher de résilier parfois des entraîneurs, il y a des salaires à payer. 2026, c'est encore un engagement qui est assez long. On est en pleine campagne d'ailleurs pour l'élection du président de la Fédération Française de Football. On connaîtra le nouveau président mi-décembre, donc tout le contexte fait qu'effectivement il est remis en question, on va dire, par le public, par les supporters en interne, probablement un petit peu moins. Il s'entend bien aussi avec Philippe Diallo, je vous dis ça, et si jamais on fait 3 défaites en mars lors du prochain rassemblement et que le fond de jeu n'y est pas, bien évidemment il va se poser la question de Didier Deschamps, mais la question est plutôt lui est plutôt posé pour savoir si lui se sent un petit peu essoufflé par tout ça. Donc effectivement, mais il continue de dire qu'il veut réoxygéner cette équipe. Et quand je parlais de Marnès Agliouche tout à l'heure, c'est un garçon qui l'a noté. Les médaillés olympiques, Enzo Mio également, pourrait bientôt voir l'équipe de France, comme l'a fait Manu Koné d'ailleurs, qui pourrait être titulaire demain, puisque Benoît, j'ai une compo probable à vous livrer. L'entraînement est terminé.
La cellule équipe de France fonctionne malgré le brouillard. Bravo Valentin.
Voilà, avec tous les reporters là qui sont à San Siro. Donc Maignan dans la cage, ouais. Compo probable avec Koundé à droite, Konaté, Saliba à la charnière et Digne à gauche. Konaté, Brassard autour du biceps, puisqu'on aurait, on pourrait avoir un milieu avec deux défensifs ou relayeurs comme vous le souhaitez, Koné, Rabiot, une ligne avec Olise à droite, Nkunku dans l'axe et Coman sur le côté gauche, et Thuram aligné plutôt que Randall Colomoni, sachant que voilà, la ligne Olise, Nkunku, Coman, ce sont des joueurs polyvalents, donc à voir comment tout cela pourrait s'aligner.
Ben voilà, donc merci Valentin Jamin d'avoir été avec nous. Donc ce 4-2-3-1, Koné, Rabiot, Olise, Nkunku, Coman et Thuram à la pointe de l'attaque dans son antre de San Siro. Merci Valentin d'avoir été avec nous, bonne soirée à toi.
Avec
merci
grand plaisir.
À Garen, merci. Qui est venu participer au débat au 32-16. À bientôt Garen. Et toi, t'as ton sentiment après cette compo d'équipe, Greg, on parlait pourquoi pas de l'association Nkunku-Thuram.
Ouais.
Si on la voit, on demande à voir en fait. On se dit que ça peut marcher.
Oui, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et Coman titulaire, c'est très bien.
Aussi, ouais.
Oui. Olise sur à côté, on le voit aussi au Bayern. Donc, non, ça se tient, c'est cohérent. Et on verra surtout le rôle d'Nkunku. Je pense qu'il sera très proche de Thuram, parce qu'encore une fois, Thuram tout seul en pointe, ça ne le fait pas.
Ouais, exactement. 19h24 sur RMC, le point sur le direct, le test match de rugby entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, Roxane Lacouscar.
40e minute de jeu, on s'approche de la pause. 19 à 18 pour l'Afrique du Sud qui domine encore contre l'Angleterre et qui ont tenté là d'essayer de passer 3 points supplémentaires par la botte de Manny Libok, mais c'est passé, il a tiré à 48 mètres, mais c'est passé juste à droite des poteaux, donc on en reste à 19-17 et on approche de la mi-temps dans 8 secondes.
Merci Roxane, on validera le score à la pause avec toi dans quelques secondes et on reçoit un invité dans l'intégral foot d'ici moins de 2 minutes. Yacine Adli, le milieu de terrain français de la Fiorentina, sera avec nous. Il nous livrera son regard sur le championnat italien, sur les joueurs qui sont internationaux italiens et qui côtoient toutes les semaines, et puis sur son regard sur l'équipe de France aussi. Invité passionnant à venir dans l'intégral foot. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron.
19h28 sur RMC Intégral Foot jusqu'à 20h avec Greg Pesley ce soir, le foot à l'honneur. Et ensuite, ce sera le rugby pour ce test match qui arrive entre la France et la Nouvelle-Zélande avant match dès 20h avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier et Denis Charmet. D'ailleurs, c'est la mi-temps en Angleterre entre les Anglais et les Sud-Africains. Les champions du monde mènent de 2 points pour le moment, 19 à 17 dans un match magnifique. Je précise également que dans un quart d'heure, on continuera de parler de l'Italie, plus précisément de la compo qui nous attend demain pour affronter l'équipe de France avec Johan Crochet, notre drôle de dame italienne. Mais donc le direct, c'est le rugby, parce que ça se met en place au Stade de France. Énorme affluence attendue, 80 000 personnes pour ce France All Black ce soir à 21h. Pierre Thévenet est sur le parvis justement avec un supporter. Salut Pierre.
Salut Benoît, salut à toutes et à tous. Ça n'a rien à voir avec la semaine dernière contre le Japon. À cette heure-là, il y avait personne sur le parvis là. C'est absolument bondé pour ce match face à la Nouvelle-Zélande. Je suis avec Arthur qui est venu des Ardennes pour ce match. Arthur, qu'est-ce que t'attends de cette rencontre après l'année un petit peu compliquée du 15 de France?
Une rencontre un peu plus explosive que la semaine dernière. Un peu plus d'essais, de belles actions. Va falloir qu'on se méfie quand même. Mais je pense qu'on peut gagner. Ça va être compliqué. Il y a une bonne équipe en face. On a une bonne feuille de match. Après, la différence va être là sur qui est le mieux préparé mentalement surtout.
Les All Blacks, c'est toujours particulier de les jouer. Qu'est-ce que ça fait de jouer la Nouvelle-Zélande?
Ça va être spécial. C'est la première fois que je viens les voir personnellement. Voir un AK, ça peut être impressionnant. Il faut rester concentré pour l'équipe. Ne pas se démoraliser et surtout avoir l'explosivité présente.
Et le stade sera guichet fermé, tu l'as dit Benoît, tout le stade rempli, 21h10 le coup d'envoi, ouais. Rendez-vous sur RMC pour ce match entre
dis-moi
France
Pierre,
et la Nouvelle-Zélande.
Vu qu'ils sont autour de toi et qu'ils sont déjà chauds, ouais. Alors qu'il fait 8 degrés à Paris, est-ce qu'on peut chanter là, un petit chant de supporters?
Là le problème c'est que j'en ai que deux, je suis dans un petit coin, mais on bah, revient dans 10 minutes. Reviens dans 10 minutes et je trouve des chanteurs.
Eh bah ben oui, je veux des chanteurs. Je veux que l'ambiance monte. Je te trouve ça dans 10 minutes. France pour ce France-Nouvelle-Zélande. Merci Pierre, on te fait confiance pour ça. 19h30 tout pile, on va se régaler vraiment avec ce France-Nouvelle-Zélande, mais on continue de parler de France-Italie et on a un invité dans l'intégral foot, le milieu de terrain français de la Fiorentina. Yacine Adli est en direct avec nous.
Salut Benoît, bonsoir.
Yacine, merci beaucoup d'être avec nous. Yacine, qui est l'homme fort d'une Fiorentina qui cartonne en Serie A, troisième pour l'instant du championnat italien. Bah, comment ça va? Tu profites de la trêve pour te régénérer un peu, Yacine?
Ouais, ça va très bien. C'est vrai que là, on profite un petit peu de la trêve. La coupure fait du bien étant donné l'enchaînement des matchs qu'on a eu. Mais bon, comme vous avez si bien dit, ça se passe bien à la Fréo, donc on est content et on est prêt à repartir pour essayer de rester sur le même rythme.
Yacine, tu joues en Italie, tu connais très bien l'Italie depuis de nombreuses années, tu es français, est-ce que tu es excité par le match qui t'attend demain, Italie-France? Tu vas pas rater ça, j'imagine.
Non, bien sûr, on va être devant les écrans, bien sûr que c'est un match toujours assez spécial, et puis on va sûrement en parler à mon retour dans les vestiaires, donc on va suivre ça attentivement en espérant voir un beau match.
T'as quelques coéquipiers qui sont en sélection italienne. Je pense à Moïse Kean, l'ancien attaquant du PSG, qui fait une très belle saison avec vous et qui est dans cette équipe italienne. Quel est ton avis d'ailleurs sur cette squadra azzurra? Est-ce que t'es surpris toi aussi par les progrès qu'a fait cette équipe depuis la reprise, depuis septembre, et notamment cette victoire en France au Parc des Princes? Est-ce que toi aussi elle te surprend ou est-ce que t'es pas surpris parce que tu côtoies les joueurs en championnat?
Non, je pense que sincèrement, cette équipe, avec une période un peu compliquée sur les dernières années, je pense que l'arrivée de Spalletti leur a fait du bien, qui connaît bien les joueurs, qui connaît bien le championnat. Ils ont aussi changé de système récemment. Auparavant, ils jouaient plus avec 3 attaquants devant, et puis voilà, on plaignait en Italie un manque de créativité. Aujourd'hui, ils jouent en 3-5-2, donc voilà, c'est un peu plus simple étant donné qu'ils ont des attaquants comme Retebi, comme Keane, qui sont dans une bonne forme. Et ce qui fait que ça rend l'équipe compétitive. De nombreuses équipes aussi en Italie jouent à 5, donc un système aussi plus adapté au profil des joueurs, je pense. Et puis aussi, je pense aussi des retours de joueurs importants comme Tonali qui était suspendu et qui est un joueur phare aujourd'hui de la sélection italienne.
Ouais, Tonali qui a été le buteur d'ailleurs en Belgique pour la victoire 1-0 de la sélection italienne. On a vu d'ailleurs, Yacine, les déclarations de Spalletti et lui l'a dit. Hein, il a dit l'amélioration aussi de cette équipe, elle est liée à l'amélioration du niveau du championnat italien. Il y a très peu de joueurs qui jouent en dehors d'Italie dans cette squadra azzurra. Est-ce que tu le constates, toi, t'as fait de nombreuses années au Milan AC, là tu t'éclates à la Fiorentina depuis le début de saison. Est-ce que tu constates toi aussi une amélioration du niveau du championnat?
Ouais, je pense que honnêtement le championnat est de plus en plus compétitif. De nombreuses équipes se sont renforcées. Après voilà, il y a aussi de gros entraîneurs qui sont arrivés. Je pense à Naples qui a récupéré Antonio Conte et qui de la 10e place aujourd'hui son premier du championnat. Donc ça joue aussi. Donc je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que c'est un championnat voilà, comme je dis encore une fois, très compétitif avec de gros entraîneurs, de belles équipes et ce qui donne aujourd'hui une compétitivité qui fait forcément du bien à la squadra azzurra, étant donné que voilà, eux, ils ont dans leur culture moins de joueurs qui s'exportent, donc beaucoup de joueurs qui jouent chez eux, et donc forcément pour le sélectionneur italien, c'est quelque chose d'important.
Yacine Adli, le milieu de terrain de la Fiorentina, en direct avec nous sur RMC. Yacine, il y a cet aspect tactique qui ressort beaucoup. Hein, Matteo Guendouzi l'a dit en conférence de presse et ce matin chez nos confrères de l'équipe. Il a été surpris quand il est arrivé de Marseille, qu'il a signé à la Lazio, de faire autant de vidéos, par exemple. Il fait 3 séances de vidéos par semaine. Toi aussi, tu le ressens? Vous l'avez beaucoup fait à l'AC Milan. Est-ce que tu le fais encore à la Fiorentina? L'aspect tactique, c'est essentiel en Italie?
Ouais, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est culturel chez eux. Voilà, après c'est un championnat où si tactiquement t'es pas calé, c'est très très difficile de prendre des points et de gagner des matchs, surtout que t'as beaucoup d'équipes en Italie qui jouent sur du man-to-man, du homo contre homo comme ils disent, sur tout le terrain, où c'est dur de s'échapper des marquages, etc. Donc voilà, si la tactique mise en place elle est pas respectée au millimètre, c'est vraiment compliqué de se créer des failles. Donc ouais, c'est, faut vraiment être très très minutieux. Et puis bon, je pense que c'est un championnat qui apporte beaucoup, beaucoup sur le plan tactique. Et je pense que, comme il se dit, que n'importe quel joueur qui sort de la Serie A peut s'exporter n'importe où, du moins au moins tactiquement.
Tu t'attends à quel type de match demain, toi? Tu penses que l'Italie va maîtriser les débats, que la France aura le ballon et que l'Italie va se contenter de bien défendre comme ça et d'exploiter la moindre faille? Tu vois le match comment?
Honnêtement, sincèrement, je pense que durant cette trêve internationale, c'est un peu compliqué de juger certains matchs. Je pense que voilà, est-ce que les joueurs vont jouer un match à fond, à pleine intensité, ouais, après tous les matchs qu'ils ont joués? Ça va être, je pense, compliqué, mais je pense que ça reste quand même un France-Italie, que les joueurs vont se donner. Je m'attends à un beau match, un match ouvert, même si je sais que les Italiens vont être compacts et regroupés en bloc. Pour faire en sorte de faire barrage aux joueurs créatifs qu'il y a devant en équipe de France. Mais voilà, je m'attends à un match plutôt équilibré et puis j'espère que voilà, ce sera un beau spectacle, surtout pour les téléspectateurs et les spectateurs du match.
Justement, c'est particulier pour toi parce que donc tu es français, tu es passé par toutes les équipes de France de jeunes. On te souhaite un jour de découvrir la sélection A. Quel est ton regard d'ailleurs sur ce que font les Bleus actuellement? On est qualifié nous aussi comme les Italiens pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Après, sur le terrain, c'est pas fameux depuis plusieurs matchs et l'illustration, ça a été jeudi face à Israël au Stade de France. Quel regard tu portes sur notre équipe de France? Tu penses qu'il faut, entre guillemets, atténuer les critiques parce que y a beaucoup de matchs, comme certains le disent, et que c'est dur de jouer tout à fond?
Non, après, franchement, sincèrement, moi, avec un regard de joueur, je pense que l'équipe de France doit surtout être jugée sur ce qu'elle fait dans les grosses compétitions. Aujourd'hui, quand tu as une équipe de France qui est champion du monde en 2018, vice-championne du monde en 2022, à chaque fois sur les euros, c'est minimum du quart, demi-finale. C'est compliqué de faire mieux, quoi. Donc, les résultats sur les grosses compétitions, pour moi, c'est ce qui compte. Après, c'est vrai que beaucoup parlent du contenu, etc. Mais pour une sélection, c'est difficile en peu de temps de créer avec des joueurs sur une semaine une cohésion maximale. Après, voilà, beaucoup de gens parlent aussi du jeu espagnol, etc. Mais c'est quelque chose de très culturel. Les joueurs apprennent ça depuis très petit. Nous, en France, on a beaucoup de jeunes talents qui s'exportent très, très vite. Donc, voilà, c'est difficile en une semaine, même si c'est des joueurs qui se connaissent depuis longtemps, c'est difficile pour moi de créer un jeu voilà, exceptionnel comme regarder un match de club. Donc voilà, je pense que cette équipe de France, elle doit être jugée sur les grosses compétitions. Et puis, je pense que sur les grosses compétitions, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que personne au monde fait aussi bien que l'équipe de France sur les 10 dernières années.
Mais tu vois, ce qui est dur à digérer pour les suiveurs de l'équipe de France et pour les supporters, c'est de se dire... En Italie, tu l'as dit, il y a le retour de Spalletti, on a identifié un style, tu vois, on a tout de suite vu les idées qu'il voulait mettre en place. En équipe de France, c'est beaucoup plus compliqué, Yacine, tu vois. Je veux pas te mettre en porte-à-faux, mais je sais pas quel est ton regard. Tu peux peut-être même instiller comme ça des idées de jeu et une volonté offensive qu'il n'y a pas pour le moment en équipe de France, tu vois.
Non, après, je pense que pour moi, de 2014 à 2022, il y a eu un style très clair, un plan de jeu très identifiable. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de départs, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. L'équipe de France d'aujourd'hui n'est plus la même que l'équipe de France de ne serait-ce qu'il y a deux ans. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Je pense que l'équipe de France est aussi sur un nouveau cycle. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et ça prend un peu de temps. Et puis, l'équipe de France a cette chance d'avoir des joueurs de très haut niveau et qui puissent garder un niveau très très haut en changeant de période comme ça et de ne pas passer par des périodes comme sont passées l'Italie ou d'autres équipes où ce sont vraiment des périodes à vide. Je pense vraiment que le PSG, l'équipe de France a besoin de démarrer un nouveau cycle et de repartir sur de bonnes bases.
Bon, t'as raison, c'est un peu le cas pour le PSG aussi, mais c'est particulier je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'on en dirait avec Yacine Adli, qui était un grand espoir du PSG, qui a lancé sa carrière professionnelle au PSG avant d'aller à Bordeaux et de rejoindre l'Italie. Là, c'est Milan. Et surtout, on est vraiment ravis pour toi, Yacine, parce que aujourd'hui, t'as 24 ans et on sent que t'es vraiment en train d'exploser en termes de régularité. Et là, t'as trouvé une équipe qui te permet de beaucoup jouer. La Fiorentina, les résultats sont là. Je le disais, une seule défaite cette saison. Vous êtes troisième de Serie A, mais à seulement un point du Napoli. Bah, parle-nous de toi. Comment ça se passe pour toi ce début de saison?
Non, c'est vrai. Comme vous dites, c'est pour moi une saison importante parce que voilà, elle permet entre guillemets de me révéler, de montrer mes performances sur le long terme et montrer cette régularité justement. Après voilà, avant Milan, je suis parti de Bordeaux qui était dans une situation compliquée. Ouais. Voilà, c'était vraiment une situation compliquée. J'arrive à Milan, voilà. Donc j'arrive recruté par les directeurs. Donc c'est pas toujours pareil quand c'est le coach qui te veut. Là vraiment, j'arrive à la Fiorentina avec un coach qui me veut, un club où je fais l'unanimité. Donc voilà, au niveau aussi confiance, c'est différent. Donc je me sens vraiment très à l'aise sur le terrain et je peux m'exprimer au mieux. Et voilà, ça donne aussi les résultats qu'on obtient aussi sur le terrain parce que je pense que c'est le cas de nombreux joueurs dans l'équipe. Et voilà, c'est important pour tout le monde de ressentir cette confiance du coach et du club.
Ouais, parce que l'autre exemple, je le disais d'ailleurs, il est de retour en sélection italienne, c'est Moïse Keane qu'on a bien connu au PSG, qui ensuite est repassé par la Juve, mais qui a eu peu de temps de jeu. C'est un peu la même situation que toi, en fait, Yacine. Là, il a beaucoup de temps de jeu, il s'éclate et il reste sur un triplé contre les Las Vérones. Donc lui aussi, il revit dans cette équipe, on a l'impression.
Non, bien sûr. Après, je pense que Moïse, il a des qualités indéniables, tout le monde les connaît. Je pense que des joueurs aussi puissants que lui, aussi agressifs avec cette grinta en tant qu'attaquant, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est comme pour tout attaquant. Un attaquant qui a peu de confiance, qui joue peu, qui a peu d'occasion de se mettre en valeur, qui n'a pas l'occasion d'enchaîner les buts, c'est dur de trouver la confiance. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a à la Fiorentina. Il marque, il est en confiance. Et puis, vous savez, comme on sait, un attaquant, hein, quand tu marques et que tu as la confiance, les occasions arrivent. T'as l'impression que le geste compliqué te le rend simple et tout au contraire, quand tout va mal, le moindre contrôle paraît super compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est cette confiance qui lui a été donnée de la part de l'entraîneur et du club qui font qu'aujourd'hui, voilà, on voit le vrai Moïse Keane tout simplement parce qu'on ne doutait pas de son potentiel.
Et Yacine, ton utilisation, parce que à Bordeaux, au PSG, on t'a connu vraiment milieu de terrain, mais on t'a vu parfois plus haut sur le terrain, un peu plus bas. Tu peux être récupérateur ou être plutôt milieu offensif. Là, tu joues vraiment dans un double pivot, milieu de terrain à deux, avec trois joueurs offensifs devant toi. Donc, t'es un vrai milieu relayeur dans cette équipe de la FIO.
Ouais, c'est bien pour moi. Ça montre aussi que j'ai une palette élargie. Et puis, comme on en a parlé précédemment, voilà, l'Italie m'a apporté ce plus tactiquement, qui fait que voilà, aujourd'hui, je peux vraiment jouer à tous les postes du milieu de terrain. Et je suis vraiment plus complet. Après, voilà, on me demande aussi d'être l'organisateur de l'équipe, un peu ce rôle de résistant en organisant le jeu de l'équipe. Et puis, voilà, défensivement, d'apporter aussi un plus à l'équipe, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, je suis un joueur plus complet.
parce que la situation contractuelle est particulière. Là, t'es prêté à la FIO avec une option d'achat. C'est trop loin, tu te projettes pas, ou est-ce que t'as envie de t'inscrire dans la durée à la FIO, toi, Yacine?
Franchement, sincèrement, c'est dur de se projeter, comme vous avez dit. On est encore en début de saison, mais voilà, l'objectif, il est d'abord de faire une grosse saison sur le terrain, faire parler le terrain, comme vous avez dit aussi, avoir cette régularité dans les performances. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Après, je pense que si on fait une grosse saison avec l'équipe et aussi sur le plan personnel, la FIO ne manquera pas l'occasion de lever l'option d'achat. Et puis, dans tous les cas, si je fais une grosse saison et que la FIO ne lève pas l'option d'achat, ça sera bien aussi pour moi qui suis en fin de contrat en 2026 avec le Milan. Donc, forcément, ça engagera de belles choses. Mais le plus important, c'est le terrain et de faire montrer mes qualités et que je suis capable de répéter ça sur la durée.
Et puis Yacine, toi, tu es un garçon ambitieux, hein, tu l'as répété à plusieurs reprises, tu as envie de découvrir un jour l'équipe de France A, donc nous, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En plus, tu sais qu'on recherche un peu de milieu de terrain avec une touche technique et un sens tactique comme ça au milieu, donc il y a peut-être un bon coup à jouer pour toi pour les prochains mois. C'est toujours dans un coin de ta tête tout ça, Yacine?
Ouais, bien sûr, moi, je cache pas que c'est un objectif pour moi. Après, honnêtement, je suis pas fan, je suis pas l'homme qui va faire des interviews pour dire je suis là.
T'as pas envie de te vendre, quoi.
Regardez-moi. Je pense que Didier Deschamps et son staff regardent tous les matchs et suivent les performances de tous les joueurs français. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de concurrence sur tous les postes en équipe de France. Donc voilà, il faut montrer de la régularité, je pense, et voilà, continuer sur ces performances-là, et peut-être que j'aurai la chance d'être appelé. Et si ça arrive pas, on continuera à travailler et on fera tout pour aller chercher les objectifs personnels et collectifs.
Merci Yacine d'avoir pris un peu de temps pour nous en cette trêve. Écoute, on te souhaite une bonne soirée, un bon match demain. Allez, l'équipe de France en Italie sera à San Siro, d'ailleurs un stade que tu connais bien, et puis on espère que ça continuera toujours aussi bien avec la FIO sur la suite de la saison. Merci Yacine.
Merci à vous, au revoir, merci beaucoup.
19h44 sur RMC, c'est reparti en Angleterre, le test match entre Anglais et Sud-Africains, et c'est reparti là aussi très fort, Roxana Kouska.
C'est reparti depuis 3 minutes entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, toujours 19-17 pour les Sud-Africains, mais on est en train de checker du côté de la vidéo un potentiel quatrième essai pour les Springboks. Donc voilà, pour l'instant 19-17, et on va voir si l'essai est validé, auquel cas ça ferait 24-17 pour les Sud-Africains à Twickenham contre l'Angleterre.
Ouais, on craint un en avant, un en avant.
C'est ça, un en avant sur la dernière passe entre Fassi et RNC.
Tout à fait. Parce qu'elle est balèze.
Ça, c'est vu en live.
Elle a tout vu. Non, mais elle a tout vu, t'inquiète. Pourquoi je dis la Kouska, en plus, c'est la Kouska.
Je t'en veux pas, Benoît.
On en reste à 24-17 pour l'instant pour l'Afrique du Sud contre l'Angleterre. La décision, peut-être d'ailleurs, Roxane, c'est sûr.
Et c'est annulé. Ah, c'est annulé. En avant, jugé entre Fassi et RNC. Donc on en reste à 19-17 entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre.
Pour les Sud-Africains. On lui avait donné une mission, il l'a remplie. Enfin, on va voir. 19h45, Pierre Thévenet sur le parvis du Stade de France. Parce que dans un quart d'heure, l'Afterlife va démarrer, spécial rugby et France-Nouvelle-Zélande, le magnifique test match de la tournée d'automne. Pierre, on t'avait demandé de nous décrocher, de trouver une chorale pour mettre un peu d'ambiance. Est-ce que tu as réussi ta mission alors?
Mais j'ai fait mieux que décrocher une chorale, j'ai constitué une chorale. C'est-à-dire que je suis allé chercher des gens partout autour de Jérôme qui est venu d'Ardèche pour voir ce match. Comment tu sens ce match, Jérôme?
On va tout défoncer, les Blacks, on va les gagner. Allez les Bleus,
aux armes citoyens.
En canon en plus.
Ouais, ils sont tentés un canon.
Magnifique. Merci Pierre Thévenet sur le parvis du Stade de France. L'ambiance qui monte, ça va être un événement magnifique. Ce France-Nouvelle-Zélande, dès 20h, on y sera avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Wilfried Templier. Le coup d'envoi du match à 21h10, mais vous l'avez entendu, les supporters français sont chauds et on va se régaler. On revient dans un instant avec Greg Pesley, la fin de l'intégral foot. On retrouvera Johan Crochet, notre drôle de dame italienne, terminer justement notre focus sur le match qui nous attend demain, Italie-France. A tout de suite sur
RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h49 sur RMC l'intégral foot jusqu'à 20h avec Greg Pesley qui est à mes côtés, donc encore pendant une dizaine de minutes. Ensuite ce sera l'after live spécial France Nouvelle-Zélande. Vous l'avez entendu, les supporters sont chauds, c'est le test match star de la tournée d'automne. On suivra ce match avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet. Coup d'envoi 21h10. Je garde un œil sur ce qui se passe en Angleterre, peut-être un essai anglais contre les Sud-Africains. Roxane,
ah, ça a chauffé longtemps sur la ligne des Sud-Africains et le troisième essai des Anglais qui est inscrit à l'instant par Henry Slade, 48e minute, et les Anglais qui vont passer devant pour la première fois, non pour la deuxième fois pardon, de cette rencontre, 22-19 avant la transformation, après une dizaine de temps de jeu. C'est incroyable ce que viennent de faire les Anglais, 22-19, on joue depuis 48 minutes, transformation à venir pour Marcus Smith.
19h50, Johan Crochet, notre drôle de dame italienne, nous rejoint. Salut Johan.
Salut Benoît, bonsoir à toutes et à tous.
Johan, t'arrives à la fin, mais c'est une intégrale foot pour toi. On a eu Yacine Adli, on a eu Balzaretti. Là, c'était l'accent italien a vibré pendant deux heures. Tu arrives au bon moment parce que tu vas nous donner les dernières informations concernant cette squadra azzurra. Il y avait la conf de Luciano Spalletti et de Donnarumma cet après-midi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été dit cet après-midi par l'équipe italienne?
Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est quand Spalletti a expliqué ce qu'il attendait de cette rencontre, qui n'est pas forcément... lui, il mise pas sur le résultat, mais il mise sur le chemin qu'ils sont en train d'accomplir pour retrouver une équipe d'Italie compétitive. Parce qu'on se souvient, évidemment, malheureusement, de cet Euro complètement raté. Et d'ailleurs, Spalletti revient assez régulièrement dessus, et il a dit d'ailleurs que c'était... depuis qu'il est arrivé, sa grosse faillite à lui personnel, c'était le match contre la Suisse, le huitième de finale de l'Euro. Et il a entamé donc pas mal de changements après cet Euro, personnel déjà, dans sa façon de gérer les joueurs. Des nouveaux joueurs sont arrivés, pas tant que ça, mais quelques jeunes joueurs sont arrivés. Et il réussit à façonner un groupe là qui... autre élément important avant de finir sur Spalletti, ce que disait Donnarumma, il expliquait que il revoyait dans le groupe actuel depuis quelques matchs le groupe de l'Euro 2021 que l'Italie avait gagné en termes de capacité à bien vivre ensemble, capacité à faire corps sur le terrain, capacité à être ambitieux et capacité à tous bien s'entendre. Et il avait quand même expliqué aussi que bah, il s'était un peu perdu pendant l'Euro et que bah, ça, alors c'est pas que tout le monde ne tirait pas dans le même sens, mais qu'ils étaient un peu divisés au sein du groupe et que c'était tout à fait de leur faute d'ailleurs. Et Spalletti lui dit... voilà, on parle pas de résultats, on parle de projets communs, on parle de qu'est-ce qu'on veut montrer de notre maillot italien aux supporters italiens qui seront là en nombre, puisque San Siro affiche complet pour, ouais, pour cette rencontre. Donc c'est vraiment les deux éléments importants. C'est ok, le résultat évidemment que c'est toujours bien et que c'est toujours important, mais continuons à travailler comme on le fait depuis la fin de l'Euro, à mettre notre jeu en place, à mettre un collectif solide en place et de donner des références aux joueurs pour être ensuite en capacité de bien gérer les matchs. Et du côté de Donnarumma, ce qui était vraiment essentiel, c'est voilà, le poncif, le groupe vit bien, dit un peu autrement.
Ah, dit en italien.
En tout cas, on a retrouvé le groupe qui doit nous permettre de faire des belles choses.
D'ailleurs, est-ce que tu as une idée de la compo qui sera alignée? On sait que Deschamps va faire tourner, hein. Je vous rappelle d'ailleurs rapidement la compo probable qui est annoncée. On aura a priori un duo Thuram-Nkunku avec Olise qui sera titulaire lui aussi et Kingsley Coman offensivement. Rabiot devrait être aligné au milieu de terrain avec Manu Koné. Est-ce que tu as une idée de l'équipe qui sera aligné par Spalletti, Johan?
Ouais, alors Sky Italy, un des principaux médias de foot en Italie, vient juste de sortir ce qui est leur composition probable avant le match de demain. Donc il y aura assez peu de changements. La base défensive semble rester la même. Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni. Donc ça c'est pour les trois derrière et le gardien.
J'adore.
La ligne de 5, Cambiaso, Barella, Locatelli. Une des deux nouveautés. C'est-à-dire que Rovella, là, qui est, ouais, exactement, qui a était plutôt bon contre la Belgique, même si sans doute un peu moins d'impact qu'avait eu un Ricci par exemple contre la France lors du match aller, enfin match aller, c'est pas vraiment un match aller, mais lors du match au Parc des Princes en tout cas, Rovella avait eu un peu moins d'impact. Là il va tenter Locatelli qui avait fait une bonne entrée d'ailleurs contre la Belgique, Tonali pour compléter le milieu de terrain à 3 avec Barella et Di Marco évidemment sur le côté gauche. Et puis la nouveauté, c'est donc a priori on a un doute encore entre Daniel Maldini et Giacomo Raspadori en numéro 10 pour accompagner Retegui numéro 9. Donc les deux nouveautés, ce serait le regista Locatelli et le trequartista, le trois quarts, le numéro 10 Maldini.
Ça te parle tout ça, l'accent italien?
Ouais, j'adore.
T'as suivi la série pendant 6 ans, Greg?
Ouais, exactement. Et puis tous les noms qui sont alignés, ouais. Donc beaucoup de cohérence.
On aimerait bien voir Maldini quand même, la troisième génération des Maldini.
Tu sais que je suis. étonnamment surpris
de le voir
de sa présence. Oui. Alors sur ses dernières entrées, quand il était à Monza, j'ai dit il y a quelque chose, mais de là à ce qu'il soit en sélection, je m'y attendais pas du tout, sincèrement.
Bon, eh ben écoute, on.
Bah et on a ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a posé la question parce que vous savez qu'en Italie, il y a la Sinner mania en ce moment côté tennis.
Ouais.
Aujourd'hui, Yannick Sinner, c'est le sportif le plus important en Italie. Malgré tout, puisque on a beaucoup parlé d'audience télé de la France ces derniers jours sur RMC, en Italie, il faut savoir que ce match contre la Belgique à Bruxelles a fait quasiment 7 millions de téléspectateurs à la télé. Rappelons aussi que le pays fait 60 millions d'habitants et pas 70.
On est passionnés, on est
et puis c'est une bonne période.
En même temps, Greg, il y avait le match du Yannick Sinner à Turin, ATP Finals,
à Turin,
et qui a fait quasiment 3 millions. Donc on avait quasiment 10 millions d'Italiens devant les événements sportifs.
On aime le sport en Italie.
Et d'ailleurs, transition toute trouvée, parce que le premier qualifié pour la finale du Master, c'est Taylor Fritz qui a sorti Alexander Zverev en 3-7. Et on attend le match entre Sinner et Casper Ruud qui est prévu à 20h30. Donc au moins les Italiens, ils pourront suivre la finale demain, parce qu'elle est prévue aux alentours de 19h. Donc a priori, la soirée italienne demain, c'est Sinner en finale, et après le Italie-France, comme ça, tranquille, à partir de 20h45. Sur RMC pour vous les qui êtes en France. Merci Johan d'avoir été avec nous. Grosse journée pour
merci
toi demain.
Vous, merci
pour cette Italie France. Un grand merci à Greg Pesley qui m'a accompagné durant toute cette soirée. On s'est régalé.
Benoît,
on n'a pas vu le temps passer.
Oui, c'est trop court, c'est déjà fini.
Et oui, c'est déjà fini parce que on va laisser la place au rugby avant de passer justement le relais à Christophe Cessieux. Le score bouge en Angleterre entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Roxane.
Oui Benoît, on s'est quitté à la 49e minute avec un essai d'Henry Slade qui a finalement été refusé par l'arbitre Brace, je vais y arriver, pour plaquage haut de Maro Itoje. Donc l'essai refusé, on en était resté à 17-19, mais les Anglais viennent de passer une pénalité par Marcus Smith. 20-19, on joue depuis 52 minutes.
Merci Roxane.
Les Anglais mènent 20-19.
Et ben voilà, 20-19 pour l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. La fin de ce magnifique test match dans l'After Rugby. Il est là, Christophe Cessieux, la Dream Team est mobilisée pour le match de l'année. Le match de la fin d'année, France-Nouvelle-Zélande. Christophe Cessieux, Wolfried Templier, Denis Charvet. Vous êtes chaud les gars? Ça va Christophe?
Bah oui, évidemment qu'on est chaud Benoît, comment ne pourrait-on pas être chaud pour un match pareil. France-Nouvelle-Zélande, c'est quand même le match ultime en matière de rugby, c'est un peu l'équivalent d'un France-Brésil quoi, en gros. France-Brésil en foot.
Donc, est-ce qu'on va leur mettre Christophe en plus?
Ah oui, alors là ça c'est pas sûr non plus, on va quand même raison garder.
Ouais,
parce qu'évidemment cette équipe de Nouvelle-Zélande qu'on avait battue il y a un petit peu plus d'un an d'ouverture de la Coupe du Monde. Bonjour messieurs Templiers.
Bonjour Christian,
comment ça va? Vous vous en souvenez de ce match-là, l'ouverture de la Coupe du Monde?
C'est un grand souvenir. Il faisait beau, il faisait 25 degrés ou 30
degrés. 27-13, on signe pour la même.
Ah ouais.
Bon bah écoutez,
même de points.
Régalez-vous et régalez-nous à l'antenne, l'Afterlife qui démarre dans quelques minutes, Christophe. Hein.
Exactement, jusqu'à 23h on sera là pour vous faire vivre ce match. Le coup d'envoi ce sera à 21h et 10 minutes précisément. Alors je sais pas si on part en pub sur Insta. Personne ne me l'a dit, donc on va en pub. Ah bah dis donc, on va en pub. Alors il est 19h57.
Soufflez,
et on revient dans un instant, Benoît. A tout de suite.
RMC, l'Afterlife.